Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 97, avec un événement exceptionnel. C'était, figurez-vous quand même, il y a plus de 20 ans, le 21 avril 1989 au Japon, naissait la Game Boy. Et oui, la Game Boy aujourd'hui fête ses 20 ans. Enfin, aujourd'hui, depuis hier très précisément, puisque nous sommes le mercredi 22, et que Rahan n'a pas éteint son téléphone portable. Mais ce n'est pas grave. Allez, vous l'avez compris, en tout cas, on va fêter tous ensemble c'est ce bel anniversaire de l'une des machines consoles les plus populaires de l'histoire. Figurez-vous, depuis son lancement, c'est plus de 118 millions de Game Boy qui ont été vendus dans le monde, ce qui fait d'elle la deuxième console la plus vendue de tous les temps, juste derrière la PlayStation 2, qui trône comme ça au sommet un petit peu des charts.
Pas pour très longtemps,
si en tout cas la Wii ou la Nintendo DS continue sur ce rythme-là. En tout cas, pendant cette heure de podcast, nous allons passer ensemble en revue l'histoire de la Game Boy, ses différentes versions, et vous allez voir, elles ont été très nombreuses, plus de 7 versions différentes, toutes les anecdotes, et une fois de plus, vous allez voir, il y a des choses sacrément croustillantes. Vous découvrirez par exemple que c'est un Français qui a designé une certaine Game Boy, mais on en reparlera tout à l'heure. Et aussi, bien sûr, les jeux clés, ceux qui ont fait rêver toute la rédaction, et puis quelques centaines de millions de joueurs aussi à travers le monde. Alors pour ça, bien sûr, Rahan, l'homme au téléphone qui sonnait au début de podcast.
Et que personne n'a entendu.
Voilà, Caf, Angel et Julo sont réunis autour de cette table à repasser, toujours aussi sémillante, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, c'est parti, et j'ai envie de commencer par un joyeux anniversaire à la Game Boy. Voilà, c'est fantastique. La Game Boy, c'est 7 versions différentes, mais alors au début, c'est un nom tout simple, Game Boy, qui a été trouvé par Monsieur Shigesato Itoi, qui travaillait en fait chez Nintendo, mais qui était aussi romancier. C'est aussi le créateur du jeu Mother, qu'on connaît aussi au Japon sous le nom de Earthbound, et aussi d'un jeu de pêche complètement méconnu sur NES, et pourtant, oui. Il a eu l'idée de ce nom, Game Boy. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, le nom de la machine, c'était pas la Game Boy, comme on le dit tous, mais le Game Boy, puisque c'est le jeu pour les garçons, en gros. Il faut savoir qu'ensuite, la console, tout le design et toute sa conception technique, on la doit à Gunpei Yokoi, le grand créateur de tant de jeux cultes chez Nintendo, qui malheureusement a eu une mort funeste.
Pourquoi c'est moi qui dois raconter cette histoire terrible et tragique?
C'est horrible.
Tragicomique.
Oui. Tragicomique, ouais, mais pas très comique en fait.
Je vais la faire très courte, comme ça a dû se passer en vrai. Il a eu un accident de voiture. Il est sorti de sa voiture. Il n'était pas tout seul dans la voiture, il était avec un autre.
Responsable de Nintendo.
Voilà, un exec, quoi, un businessman. Et il est sorti de la voiture et il s'est fait faucher par une autre voiture, en fait.
Voilà suite au premier accident.
Voilà, ne jamais sortir de sa voiture pour regarder les dégâts ou alors vérifier bien qu'il n'y a personne.
C'est ça. Enfin bon, Gunpei Yokoi, c'est quand même un peu le génie de Nintendo pendant très longtemps. C'est lui qui a inventé la croix directionnelle. C'est donc lui qui a donné naissance à la Game Boy. Il a fait aussi des jeux assez mythiques. Il est à la base d'un certain jeu comme Metroid. Et puis donc, c'est le père de la Game Boy en tant que tel, voilà, Game Boy qui a été décliné en plusieurs versions, puisque au Japon elle est sortie le 21 avril 1989, aux États-Unis le 21 juillet de cette même année, 89, et pour nous Européens, il aura fallu attendre le 20 novembre 1990 pour pouvoir enfin mettre les mains sur la première vraie console portable de l'histoire, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu un tel retentissement, et on le verra tout à l'heure par rapport à ses concurrentes, elle avait vraiment des forces uniques, à commencer par son autonomie, même si elle était peut-être beaucoup moins puissante, même sûr.
Oui, c'était une optique complètement différente.
Exactement. Alors, on va revenir un petit peu en profondeur, déjà, la première Game Boy. Quelles étaient un petit peu techniquement, là, je me tourne un peu plus vers toi, Caf, notre spécialiste de la technique.
Yes.
Remettons un petit peu dans le contexte, c'était en capacité graphique, c'était du... on parle aujourd'hui de résolution Full HD, HD du 1080 ouais. par 1920, etc.
C'était du Full HD en carré, voilà. C'est des petits pixels, c'est
donc
très
à l'époque,
différent. C'était déjà du 160 par 144, alors je crois que n'importe quel téléphone portable fait mieux maintenant, même les plus pourris. Mm-hmm. 4 nuances de gris, yes.
Je pense que même les calculatrices Casio font mieux.
Mais grave, je pense que les TI 99, les trucs qu'on avait à l'époque, c'était vachement plus puissant. Le processeur, c'était un 8 bits, mais alors on est en 89, il faut se rappeler, donc c'était encore des trucs bon marché. marché, qui n'était pas complètement ridicule, mais on n'en utilisait déjà plus dans les ordinateurs personnels depuis bien longtemps. On était déjà passé au 16-32 bits, c'était la révolution. Là, vraiment, Nintendo, des années avant la Wii et compagnie et la GameCube, ils font déjà le pari du low cost, mais autonomie, alors que techniquement, la console, il ne faut pas se voiler la face, elle était complètement dépassée. Hein. Déjà en 89 à sa sortie.
Ah oui. Elle est quand même cadencée à 4,19 MHz.
Ah oui, non. Bah, peu. Attention,
je crois que les montres, hein, Seiko et compagnie,
attends,
sont.
Attends, mais elle avait 8 KO de RAM, gars.
Ouais. Un truc de fou. 4 voix stéréo, ça c'était vraiment pas mal pour l'époque, en fait. En 89, c'était un truc vraiment pas mal.
Et d'ailleurs, c'est.
Mais en dehors de l'affichage, en fait, on n'était pas si loin d'une NES, non ?
Écoute, je me rappelle plus du tout des stades de la NES.
Voilà, en dehors de l'affichage. Quoi.
Écoute, c'est possible parce que de toute façon, je te dis, Nintendo n'a jamais été précurseur techniquement. Ils n'ont jamais essayé de se battre là-dessus. Ouais. Contrairement à un NEC qui, à la même époque, essayait de faire des pros graphiques avec des gestions de sprites hyper avancées, etc. Nintendo, c'est marrant, mais en développement, la seule fois où ils ont fait une vraie avancée, où ils ont vraiment fait bosser des gens, c'est quand ils ont essayé de développer les pros justement pour la suite, qui était entre la N64 puis la GameCube, où il y a eu un peu d'intégration, développement, de la vraie recherche. Avec les mecs qui font des vrais pros, mais ça n'a jamais été dans une optique de puissance pure, c'est toujours dans une optique de réduction des coûts, etc.
C'est la philosophie de Nintendo. Hein.
Ah, complètement. Bah,
ils sont battus pour l'autonomie.
Ça a plutôt payé pour l'instant. Hein. Ouais. C'est un petit côté écureuil. Mais non, techniquement, c'est clairement pas impressionnant. Et les cartouches, il faut quand même rappeler qu'elles font 256K la plupart au pot départ, donc c'est que dalle. Et les grosses vers la fin, elles font 4 mégas. Donc 4 mégas, voilà.
Là, par contre, ça commence à faire beaucoup pour de la Game Boy quand même.
Ah, mais c'est énorme. Je suis même pas sûr. Je crois que c'est techniquement, je suis même pas sûr qu'il y ait des jeux à 4 mégas. Je pense que ça pouvait gérer 4 mégas, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait eu.
Alors justement, avant de
parler... Attends, il y en a oublié un truc majeur quand même, qui était déjà bien. C'était pas la première portable à le faire, mais c'est quand même la connexion série qui permettait de jouer en Link.
Exact.
Et aussi de la relier à plein d'accessoires qu'on verra tout à l'heure, bien débiles.
Et du coup, on pouvait jouer effectivement jusqu'à 4 en simultané avec certains jeux qu'ils proposaient, mais il fallait avoir les 4 jeux.
Ouais. C'est sorti. Au départ, c'était uniquement à 2. Il y a effectivement eu un câble Link avec un
quadruple.
Un multitap.
Ouais. Exactement. Alors justement, puisqu'on a décidé de faire ce podcast le dédié à la Game Boy suite à son anniversaire d'hier, eh bien, sur les 7 versions sur lesquelles nous allons revenir tout au long de ce podcast, juste pour vous faire un petit rappel rapide pour ceux qui auraient peut-être oublié dans le lot une Game Boy qui serait perdue,
qui n'était pas née
effectivement. Donc il y a eu la première Game Boy en 89, suivie de la Game Boy Pocket en 96, et vous verrez que cette date de 96 a une véritable incidence et vous comprendrez pourquoi Nintendo a ressorti une nouvelle Game Boy à ce moment-là. On reviendra dessus tout à l'heure. Il y a aussi eu Game Boy Light qui est sorti en 98, mais qui n'est jamais sorti en dehors du Japon.
Elle a très vite laissé sa place à la Game Boy Color, en fait.
Exactement. Voilà. Donc la Game Boy Color qui arrive quelques temps après, hein, dès le 21 octobre 98 au Japon, suivi ensuite, et vous le verrez, on l'a décidé de l'intégrer, de la Game Boy Advance en 2001, en mars 2001, de la Game Boy Advance SP après en 2003, et puis enfin de la Game Boy Micro qui est sortie en 2005. Voilà,
ce qui est récent quand même. Hein.
Exactement, ouais, très très récent pour cette version, mais donc qui se décline en fait en 3 gammes essentielles, et vous allez comprendre pourquoi ces gammes, la Game Boy, la Game Boy Color et la Game Boy Advance, qui sont en fait à chaque fois les 3 fois où Nintendo n'a pas fait que retoucher, on va dire, le design ou ajouter un petit supplément, c'est-à-dire pour la Game Boy Light, bah, le rétro-éclairage, qui est parti d'ailleurs après, mais plutôt une vraie retouche, on va dire, technologique à chaque fois, et qui se sont accompagnés par la sortie de jeux phares, certains ayant même relancé complètement l'histoire de la Game Boy.
Il faut être très clair, hein, la Game Boy Advance, techniquement, ça n'a rien à voir.
Elle était
pas mal avancée finalement aussi pour son époque.
Ah bah elle, c'est un processeur RISC 32 bits et tout, donc on a eu un changement de génération hallucinant.
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour le coup ils se sont un peu fait chier sur la Game Boy Advance. Ouais,
sauf que t'avais toujours pas de rétroéclairage.
Ils l'ont exploité pendant des années. J'ai toujours mon rétroéclairage que je n'ai jamais intégré à ma Game Boy. Tu sais, on pouvait acheter des kits de rétroéclairage.
Oui, bien sûr.
Je l'ai acheté, je l'ai jamais monté. Il est toujours dans mon tiroir.
On en parlera tout à l'heure quand on parlera des accessoires originaux, parce qu'il y en a eu pas mal, certains qui permettaient d'avoir un véritable, je sais pas, Robocop, de transformer sa console en Robocop. Il y avait des trucs qui ressortaient de partout, des manettes, des trucs, des accessoires complètement fous. Enfin bon, en tout cas, vous allez voir en vous rendant compte avec quelques chiffres très rapides. La Game Boy, la première du nom, donc vraiment la blanche un peu massive, un peu stockmable, c'est quand même plus de 620 jeux qui ont été créés spécialement pour cette machine. Ensuite, la Game Boy Color, c'est plus de 460 jeux, vraiment optimisés Game Boy Color. Tandis que la Game Boy Advance, là, c'est vraiment un gros boost. Hein. C'est plus de 960 jeux. On est quasiment à 1000 jeux sortis sur cette machine. Donc, on voit que quasiment à chaque petit changement de gamme, eh bien, ça n'a cessé de progresser. Et en tout cas, une machine qui a donné vie à énormément de jeux, même si ça reste bien inférieure aux consoles de salon.
Ouais, et qui étaient tous jouables, sauf sur la Game Boy Micro qui prenait plus les jeux Game Boy, mais ils ont bien exploité la rétrocompatibilité.
Exactement.
Qui faisait qu'elle avait un catalogue de jeux incroyable à chaque nouvelle itération qui sortait. Chaque nouvelle série en fait importante. Donc quand la Game Boy Color est sortie, elle pouvait déjà, on pouvait même choisir ses couleurs sur les jeux qui étaient noir et blanc. Bref, donc ça a été un gros avantage pour eux.
Alors justement, pourquoi cette machine a à ce point-là su traverser les temps, les époques et su laisser un tel souvenir vraiment chez les joueurs? On va parler un peu des forces de la Game Boy. Je crois que la toute première, c'est franchement c'est son autonomie. Hein,
la 30 heures, 30 voilà, heures à
avec
4
piles,
hein,
avec 4 piles sur la première. Ouais.
C'est juste de la science-fiction hein, pour l'époque.
Bah, c'est-à-dire qu'en face, t'as des trucs genre la Lynx, la Game Gear, la NEC GT, des trucs qui font entre 2 et 6 heures, on va
c'était
dire.
Entre deux, ouais,
la NEC GT, je crois que celle que j'avais avec les je crois que c'est 6 piles et je crois que...
Oui, c'est vrai, c'était 6 piles, je crois.
C'est 6 piles et je la crame en 4 heures, un truc comme ça. Il faudrait que je revérifie parce que je l'ai toujours, mais c'était une horreur, une vraie horreur.
La Game Gear, moi je pense que là, t'avais grosso modo pile poil le temps de finir Sonic.
Ah, c'est déjà pas mal.
À fond alors, à fond les ballons.
Et donc l'intérêt, c'était de jouer avec l'adaptateur branché. Enfin, sur l'adaptateur rectal.
Je crois que le premier accessoire pour ce genre de portable, c'était genre l'adaptateur allume-cigare pour jouer dans la voiture.
Ouais, à fond.
Sinon, c'était juste pas possible. Quoi.
Moi, je me souviens que c'est comme ça que j'ai commencé à être aussi. J'étais encore en cours, évidemment, à l'époque, avec une Game Gear. Je jouais à Shinobi et j'ai pris les places avant parce que c'était là qu'il y avait les prises. Je jouais sous le bureau, évidemment.
À ne pas faire, hein, bien sûr. Oh là là, c'est mal.
Bon, en tout cas, si l'autonomie était très importante, même si peut-être que Julo, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet.
Non, mais tu parlais de la taille de la console, et effectivement, on trouve aujourd'hui que la Game Boy, la première, était très grosse, mais celle qu'il y avait en face, la Lynx.
Ah bah oui, bien sûr.
Et la Game Gear, putain, mais au secours, quoi. Elles étaient encore, encore bien
plus. On se souvient aussi des pubs qu'ils avaient fait à l'époque dans les magazines, où les gens glissaient la Game Boy dans les poches arrière de jeans.
Donc, mine de rien, elle était assez compacte quand même pour l'époque.
Ouais. Et justement,
c'était aussi un avantage.
Ouais, tout à fait, justement, puisqu'on parlait de pubs, rappelez-vous aussi, les pubs étaient beaucoup moins Nintendo-esque qu'à l'époque.
Mature, ouais.
On montrait finalement peu de jeux, mais plutôt un état d'esprit. Il y avait des pubs où on voyait Einstein avec la Game Boy, Armstrong qui était sur la Lune, arrivé avec sa Game Boy. En gros, la Game Boy est partout. La Game Boy, c'est tendance. La Game Boy, c'est un peu universel. C'était vraiment un message qu'ils voulaient faire passer. Ils montaient finalement peu d'images de jeux. À la fois, on comprend, avec quatre couleurs.
En noir et blanc à la télé, oui, c'était
super moche. C'était un truc général. Dans les pubs de jeux vidéo à l'époque, on montrait très peu les jeux, tellement c'était laid. En général, hein. les pubs.
Et d'ailleurs, Nintendo faisait des bonnes pubs à l'époque. Hein. On se rappelle aussi des pubs Zelda. Et tout ça. Ils avaient une bonne com.
Avec un squelette.
Ils en ont toujours une bonne. Hein. Mmh. Mais bon.
Mais alors, justement, néanmoins, on parle de pubs, on parle d'autonomie, c'est bien. Mais enfin, le succès d'une machine, on le sait tous ici, hein, c'est avant tout ses jeux. Alors, on va pas revenir.
Preuve en est d'ailleurs qu'elle avait beaucoup de défauts quand même, parce qu'on les a pas. On en a pas trop parlé, mais. Déjà à l'époque, genre l'écran, si t'avais pas du soleil dessus, que tu voyais un peu rien.
Fallait jouer sous une lampe.
Enfin, c'était il y avait quand même des défauts quoi.
On parlait de nuances de gris tout à l'heure. C'était surtout des nuances de vert.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que l'écran est un LCD vert en fait sur fond vert, donc ça change pas mal.
Enfin, sur la première quoi.
Tu veux réagir?
Ouais, mais c'était enfin quand on y pense, c'était avant. Finalement, on avait que les Game & Watch. Et que les trucs comme ça pour jouer.
Ah, mais...
Pour jouer en nomade, on avait que ça. Et mine de rien, même si c'était du monochrome. Qui est super visible maintenant, c'était une évolution qui tuait. Surtout, on avait des vrais jeux au lieu d'avoir...
Attends, mec, on avait des scrolling, et quand j'ai vu ça, mais j'étais genre, oh, ça tue.
Ouais,
non, parce qu'on va parler des jeux tout à l'heure.
Tu les voyais bien parce que ça bavait à mort.
Ouais, mais justement, t'en profitais bien, regarde, c'est smooth, ça bouge de droite à gauche, c'est la classe. Parce que le premier jeu, c'était Tetris, tout le monde a joué à Tetris sur Game Boy, donc on va y venir. Mais les scrolling, mec, c'était quand même la première fois qu'on voyait vraiment ça.
Mais le truc le plus génial, enfin, moi à l'époque, je me souviens très très bien quand j'ai eu ma Game Boy au début, etc. C'était la sensation d'avoir une vraie console avec des vrais jeux, des vraies cartouches que tu pouvais empiler, etc. Et c'était cette expérience-là qui était géniale.
Ils avaient des petits étuis en plastique qui étaient très
sympas
aussi, dans des petites coques.
Ouais. Donc voilà, tu collectionnais tes jeux, etc. Et y avait, c'était complètement nouveau quoi, sur portable.
Caf.
Et surtout, t'avais un truc, c'est que tu vendais pas un rein pour l'acheter, contrairement à ses concurrentes. Mais c'était quand même son avantage aussi de base.
Et puis rappelez-vous aussi, dans la boîte, le pack initial européen était très bien fourni. Il y avait des écouteurs qui étaient vendus avec.
Le bon temps.
Il y avait Tetris.
Il y avait Tetris, le jeu emblématique quand même. On va être obligé d'en parler maintenant. Hein. On parlera tout à l'heure de tous les jeux et il y en a tellement. Hein. Mais Tetris, en tout cas, c'est le jeu fondateur. C'est le jeu qui a fait découvrir pour beaucoup de personnes la Game Boy. Il y a beaucoup aussi de personnes qui l'ont acheté que Tetris, enfin que la Game Boy avec Tetris. Point.
Ah, mais c'est clair.
Ça me fait penser à tous mes potes qui ont une PS3 ou une.
une PS3, PS2. On va dire, ou une PS2, pour PES, quoi. Ouais. Voilà, qui joue qu'à ça.
Il y en a un paquet. D'ailleurs, la PES machine au Japon, on sait pourquoi elle a, son petit, elle a ce petit nom.
Angel.
Mais Nintendo savait très bien que, quand même, que Tetris était un truc super fort, et c'est pour ça qu'ils avaient fait le forcing pour récupérer la licence, quitte à foutre, je crois que c'était Atari qui l'avait.
C'est super compliqué.
Ils ont foutu Atari au tapis pour récupérer la licence afin de l'intégrer directement dans la Game Boy, en sachant qu'ils allaient les vendre par palette. Enfin, il n'y avait rien de plus vendeur pour une console portable que d'avoir un Tetris dedans. Quoi.
C'était pas Atari, il y a un reportage, on en a déjà parlé sur le rachat de la licence de Tetris.
Je sais plus si c'était Atari.
C'est une boîte anglaise, le nom m'échappe, mais en fait, ils avaient la licence pour les micro-ordinateurs. Ils étaient persuadés de l'avoir pour les consoles aussi, et Nintendo les a super fistés. Genre, non, les consoles, c'est nous, mais tu peux le garder sur ordinateur si tu veux, il n'y a pas de problème.
Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un gros imbroglio à ce moment-là, mais en tout cas, c'est le jeu qui a fait la renommée, hein, vraiment de la Game Boy pendant toutes les premières années. Ben, clairement.
Moi, c'était l'excuse pour pouvoir l'acheter.
Mais c'est marrant parce que moi, ça, personnellement, par exemple, ça me paraît pas être un pari si évident que ça pour l'époque. Quoi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout la Game Boy qui a rendu Tetris encore plus populaire. Quoi. Vraiment, un truc.
Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Tetris avec la Game Boy quand même.
Ouais. Ma mère.
Alors, Tetris, quand l'autre il a sorti du fond de son blocos russe, ça avait déjà fait un carton. Hein. Le bouche à oreille, c'était.
Alexei Pajitnov.
Le bouche à oreille, c'était phénoménal. Hein. Donc, Nintendo était super pas dupe. Hein. Il savait très bien où ça allait. Mais
on savait déjà que c'était un bon jeu.
Le grand public ne le connaissait pas du tout. Le grand public n'était pas du tout au courant, et c'est vraiment la Game Boy qui a vraiment fait exploser Tetris.
Il y avait déjà eu un CES où tout le monde était tombé en admiration devant ce truc.
Oui, mais ça reste un truc de professionnel à ce moment-là. Le grand public, c'est parce que ça.
Oui, mais justement, le job de Nintendo, justement, parce qu'ils sont professionnels, ils savent très bien le truc qui va marcher. Quoi.
Disons qu'ils ont eu du nez, mais c'est vrai que la démocratisation de Tetris, c'est vraiment la Game Boy qui a permis de la faire.
Si justement tout le monde s'est battu pour avoir la licence, c'est qu'il y a
une raison. Évidemment, ça, c'est clair.
Mais alors, je sais pas pour vous en termes de souvenirs de gamer, mais alors pour moi, quand je pense Game Boy instantanément, je pense à une chose, c'est l'écran titre quand il y a le Nintendo qui descend et ça fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment resté comme symptomatique, symbolique de cette machine où on était. Il y avait quelque chose.
C'est le fameux écran de boot, quoi. Ouais. Mais elles ont toutes, enfin, moi par exemple, c'est plutôt l'écran de boot Neo Geo qui m'est resté, mais bon. C'est chacun son truc.
Ça raconte ce mec, c'est incroyable. Oui, moi et ma Neo Geo quand vous étiez pauvre.
Avec vos Game Boy.
Avec vos Game Boy.
Ça va, je suis pauvre aujourd'hui, alors c'est bon, je me suis rattrapé.
Non, mais juste un truc, aujourd'hui on s'émerveille de voir des gens, a priori pas joueurs, hein, des adultes, des filles, etc., jouer. À l'époque, moi je me souviens, la Game Boy, c'est la première fois un peu qu'on voyait ça. Mais dans le métro, je voyais des.
Avec Tetris.
Ouais,
avec justement, Tetris, à ce sujet-là, je crois que t'as une anecdote.
C'est un truc de malade, parce qu'en fait, moi je l'avais acheté en utilisant mon petit frère comme excuse extraordinaire. Merci frérot. Parce que évidemment, moi j'étais déjà un peu vieux pour acheter une Game Boy, qui était encore. On considérait vraiment encore les jeux vidéo comme des trucs de jeu. Et puis la Game Boy, c'était un peu le Game & Watch de luxe dans l'esprit des gens. Donc pour faire passer à ma mère, j'allais réussir à acheter ce truc-là. C'était pas gagné. Et mon frère m'a servi d'alibi. Et en fait, avec mon frère, un jour, on fait mais elle est où la console? Et je fais voir mon frangin, je fais mais c'est toi qui l'as et tout. Il me fait non, c'est maman. Et je fais qu'est-ce qu'elle fait maman avec la console? Ben, elle joue à Tetris. Mais elle y joue longtemps? Ben, elle y joue tout le temps. Et en fait, un jour, je la regarde jouer. Donc, déjà, on n'a plus le droit de toucher à la console pendant 3 mois. La console était sur la table du salon devant la télé. Non, pas cette musique. Et c'est comme ça que j'ai découvert la fusée. Parce que moi, Tetris, j'étais très mauvais en fait. Donc, j'arrêtais pas de perdre. Et un jour, je suis en train de la regarder jouer. Elle commençait direct au level 10 de vitesse machin et tout. J'étais là genre mais comment elle fait et à un moment je vois une fusée décoller et la fusée décollait, moi je savais même pas qu'il y avait, je sais pourquoi il y a une fusée dans Tetris, c'est complètement débile quoi. Et là j'ai compris que c'était la fin du jeu entre guillemets et je l'avais jamais vu quoi. Donc ma mère déchire à Tetris et après elle m'a dit les jeux vidéo quand même c'est pas bien pour l'esprit, parce que moi quand je fais des rêves je rêve de blocs qui tombent en ce moment.
D'accord, très bien.
Non, elle y a vraiment beaucoup joué.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, à titre personnel, ça a été aussi un peu ma porte d'entrée avec le jeu vidéo chez moi, dans ma maison à moi, puisque mes parents ne voulaient pas qu'on ait une console de salon qui se branche sur une télé, genre la NES. Donc j'allais y jouer chez des potes, à la Master System, et j'ai réussi, par le truchement de la Game Boy, à démocratiser un peu le jeu vidéo de chez moi. Et c'est vrai que j'ai eu la même expérience de voir ma mère jouer un peu à Tetris et y prendre du plaisir.
Ah, mais carrément.
Donc preuve qu'effectivement, déjà, Nintendo avait une approche ambivalente, quelque part, avec des très bons jeux gamers.
C'est un jeu super casual, quoi. C'est le jeu casual, quoi, tu vois. Alors que, pas du tout, parce qu'il est hyper hardcore. Quand tu vois certains mecs et certains sites web dédiés à Tetris, tu fais, ok, les gars, faut prendre des médicaments maintenant, hein, c'est grave. Mais c'est à la base, le principe du jeu, il est super casual. Tout
easy
monde
to
y
play,
joue,
hard to master.
Oh, c'est beau comme tu parles.
Voilà. En tout cas, on est d'accord là-dessus. Si on reviendra sur les grands jeux qui ont fait l'histoire de la Game Boy tout à l'heure, on est d'accord pour dire que c'était pas un monstre de technologie incroyable pour l'époque et que ses concurrentes lui mettaient quand même cher. Alors bien évidemment, on a évoqué le problème de l'autonomie, mais enfin, on va voir qu'il n'y avait pas que ça dans l'absolu, puisque que ce soit la Game Gear, que ce soit la Lynx, la PC Engine GT, la WonderSwan, les Neo Geo Pocket, ou même quelque part presque la N-Gage, se sont fait dicter la loi par Nintendo. Julo, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi Nintendo a été aussi fort dominateur pendant si longtemps sur le marché des portables? Il n'y avait que Nintendo, point barre, quoi.
On l'a déjà dit, en fait, finalement, c'était les forces de la console qui étaient l'autonomie, qui était le prix, qui était surtout le catalogue de jeux, la popularité, etc. quoi. Donc, à côté de ça, tu pouvais être gamer, savoir que la Game Gear existe ou la Lynx, etc. Les gens, le grand public, on n'avait rien à secouer, quoi.
Les joueurs essayaient surtout à l'époque, on était très un peu.
Moi, j'ai eu une Game Gear, j'étais très content, etc. Mais je comprends parfaitement pourquoi elle s'est pas imposée, quoi.
Mais t'emmènes pas ta Game Gear, t'emmènes ta Game Boy parce que tu sais que tu vas pouvoir y jouer, quoi. Et puis il y avait l'aspect, on parlait du fait qu'elle a réussi à toucher le grand public. Ils ont été très malins aussi, Nintendo, parce que déjà à l'époque, ils ont commencé à décliner très tôt les consoles à partir de la Pocket, etc. Ouais. À faire des couleurs différentes, à séduire avec l'objet, quoi.
Alors justement, la première Game Boy étant sortie en 89, on connaît les habitudes de Nintendo, et c'est tout à fait normal. Il fallait quelques années après, beaucoup d'années plus tard, essayer de redonner un petit coup de fouet à la Game Boy qui, en 96, commençait à voir ses ventes quand même un petit peu décliner. Et du coup, ils ont sorti la Game Boy Pocket. Alors de quoi s'agit-il, la Game Boy Pocket, qui sort donc au Japon le 21 juillet 96 et puis quasiment dans la foulée en France chez nous? Au niveau technique, qu'est-ce qu'elle apportait, cette machine?
Au niveau technique, pas forcément grand-chose. C'était surtout un design plus fin. Mm-hmm. Elle était un peu plus petite, une trentaine de pourcents moins grosse qu'une Game Boy, qui était en comparaison quand même vachement plus épaisse, surtout. Ouais. Un meilleur écran. Elle avait 10 heures d'autonomie.
Ce qui est beaucoup moins quand même.
C'est beaucoup moins, mais c'était avec moins de piles aussi.
C'est ça, c'est deux piles.
Deux piles,
ouais, tout à fait. Donc en fait, ils avaient sacrifié finalement un peu la taille, parce que là vraiment, le Pocket était judicieusement utilisé. Elle était beaucoup plus fine effectivement que la première, mais au détriment un peu de son autonomie.
Ce qui n'était pas forcément gênant, quoi, parce que vu que c'était deux piles, ça revenait pas moins cher, en tout cas en piles, quoi.
Ouais, mais ce qui fait quand même que ça a été plus une période de transition qu'autre chose. La Game Boy Pocket n'a pas non plus marqué complètement les esprits. Quelques années après, 2 ans plus tard, en avril 98, exclusivement au Japon, la Game Boy Light sortait. Alors ça, énormément de personnes, vraiment, ça fait des envieux, hein, puisque cette machine n'est pas sortie en Europe. De quoi s'agissait-il exactement, Julien?
C'était tout simplement une Game Boy Pocket avec un écran rétroéclairé. Donc c'était enfin, tu pouvais jouer à la Game Boy dans le noir sans être en dessous d'une lampe ou à la lumière du soleil, etc., quoi. Donc au niveau design, c'était une Pocket, quoi, tout simplement.
Ouais, grosso modo. Ouais. Les vendeurs d'accessoires se sont tirés une balle. Ils vendaient.
Oui, c'est vrai.
Faut rappeler que les vendeurs d'accessoires vendaient des loupes et des lumières.
Oh, mais cela dit, ils n'en avaient évidemment pas vendu beaucoup, parce que ça a été en vente au Japon uniquement, et surtout pas très longtemps avant la sortie de la Game Boy suivante, quoi.
Oui, alors justement, c'est assez amusant, parce que en octobre 98 sort la Game Boy Color, et alors justement. Finalement, on garde la rétrocompatibilité, oui.
Ouais, toujours. Ouais.
On a techniquement
avec les jeux, oui. Donc, oui, les jeux noir et blanc.
Exactement. Ouais.
On garde la taille réduite.
On garde la taille réduite. On y apporte la couleur. On accélère un petit peu le processeur. Il est deux fois plus rapide, je crois.
Ouais.
Mais en revanche, il y a pas de rétroéclairage. Ouais. On revient en arrière.
Grosse
finalement.
Déception. Moi, je me souviens, j'ai eu la Game Boy Color au tout début et tout, et je me souviens l'avoir montré aux gens et tous, sans exception, me disaient mais attends, elle est en couleur, mais c'est de la merde. Cet écran, on voit rien, on voit pas les couleurs, etc.
Ouais, puis en plus, je me souviens bien, la plupart des jeux, c'est affiché genre 4 ou 8 couleurs à tout casser, c'était vraiment pas énorme, quoi.
Disons que il y avait certains jeux, comme notamment moi, mais j'avais beaucoup joué à Metal Gear, qui était un jeu
Ghost Babel,
spécifique à la Game Boy Color. C'est vrai que t'avais quand même une différence assez visible, quoi. Mais c'était pas énorme, quoi.
Alors justement, il y avait deux styles de jeux. Il y avait les jeux comme Ghost Babel qui étaient exclusivement dédiés à la Game Boy Color, qu'on ne pouvait pas jouer avec les Game Boy antérieurs. Et puis certains jeux qui étaient hybrides, un petit peu comme ce qu'on va connaître demain avec la DS et la DSi. Je m'étouffe. C'était des jeux, par exemple, je pense aux Zelda Link Awakening, qui avaient des options supplémentaires, quelques donjons spécifiques à la version Color, enfin quand on avait une Game Boy Color. Ils mais ont... c'était assez limité quand même.
Ils ont sorti beaucoup de jeux version DX. Il y a eu Tetris DX, il y a eu les Zelda DX. Voilà. C'était la grande mode à ce moment-là, c'était de rajouter un peu DX, deux, trois trucs au jeu
Deluxe,
en mettant DX pour Deluxe. Ouais.
Mais alors, si ces Game Boy, qu'elles soient Pocket, Light ou Color, ont pu voir le jour, c'est tout simplement parce que, et vous l'avez vu, hein, c'est arrivé quasiment 10 ans après le lancement de la première Game Boy, c'est tout simplement parce qu'il y a un jeu qui a fait l'effet d'une bombe, véritablement, qui a complètement relancé une machine qui était en train de suffoquer un petit peu, hein, quelque part. C'était en 96, un jeu qui s'appelait Pocket Monsters, sur lequel on va revenir juste là, puisque ce ne sera pas dans notre listing de grands jeux tout à l'heure. Et puis parce que finalement, c'est lui qui a redonné vie, réinsufflé vie à la Game Boy et l'a reprojeté en avant. Julo, Pocket Monsters, c'est...
Pocket Monsters, donc c'est, comme tu disais, un jeu qui a été créé en 98, avec un principe... Je raconte un peu le...
Oui, mais dis-nous, surtout pour ceux qui n'auraient pas encore tilté, il est très connu sous un autre nom.
Ah, bien sûr, oui, pardon. Oui, alors, il faut savoir qu'en japonais, quand il y a des mots composés, on aime beaucoup les couper. Donc, Pocket Monster, c'est évidemment Pokémon. Voilà. Donc, un jeu qui a eu un succès immédiat, fulgurant, qui a fait qu'on a vu d'ailleurs très vite une sortie aux États-Unis par la suite, et des dessins animés en même temps, etc. Enfin, Nintendo a tout de suite capté la puissance du filon, quoi.
Et c'est les seuls, parce qu'apparemment, le jeu au départ c'est pas développé par Nintendo.
Ils l'ont très vite récupéré. Et ils en ont fait un jeu phare qu'ils ont décliné, on ne sait comment.
Et un monstre commercial, hein, puisque c'est devenu quand même, derrière Mario, la deuxième série la plus lucrative de l'histoire du jeu vidéo.
Ils ont même fondé la Pokémon Company.
Exactement. Ouais. En moins de 10 ans, ça s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même.
T'as des Pokémon Store, plein de trucs comme ça. Et le merchandising.
Il y en a qui doivent se mordre les droits d'avoir refusé d'éditer ce jeu.
Ouais. C'est clair.
En tout cas, oui, vraiment, ça a relancé. Si on en parle là maintenant, c'est parce que vraiment, ça a eu un impact très fort sur la Game Boy, qui, très honnêtement, pour ceux qui se rappellent un petit peu des années 94, 95, 96, en gros, il y avait quasiment plus rien qui sortait, hein, et c'était que des petites adaptations vite fait. Et puis suite à ça, la Game Boy a vraiment repris du poil de la bête. Hein.
C'était un gros jeu, hein, en fait, hein, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas Pokémon, mais c'est un vrai RPG.
Ah oui, bien sûr.
C'est un RPG très enfantin dans lequel on joue sur la corde de la collectionnite, quoi. Voilà, en gros, il s'agit de récupérer des monstres.
C'était ça, le vrai génie.
Le jeu, tout le monde connaît.
Attraper les monstres. Le vrai génie, tout ça, c'est que suivant la cartouche que tu prenais, la version de la cartouche que tu prenais, t'avais pas tout à fait la même liste de monstres.
Ouais,
et que comme on pouvait se les échanger avec le Link, il y avait certains monstres que tu ne pouvais pas avoir si t'avais telle version, etc.
Ouais, ça, c'est quand Pokémon est arrivé, donc avec la version américaine, etc., quand il y a eu les différentes couleurs et tout. Tout le marketing et tout le principe était déjà bien rodé, mais effectivement, la première version japonaise était sortie en une version, ouais. Pocket Monster, etc.
Allez, on va reprendre notre course en avant sur l'histoire des Game Boy. Donc là, on arrive en 2001. Après donc l'époque de la Game Boy tout court, hein, vient le temps de la Game Boy Advance, la GBA, qui arrive donc le 21 mars 2001 au Japon et le 22 juin 2001 chez nous. D'ailleurs, ça permet l'occasion de se rendre compte que, voilà, après les années 2000, désormais, les consoles sortent beaucoup plus rapidement entre le Japon et le reste du monde, puisqu'il avait quand même fallu attendre un peu plus de temps avant.
Ou alors elles sortent en retard au Japon, peut-être.
On ne sait pas, il est en retard. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'apporte vraiment la Game Boy Advance? Parce que là, c'est plus une Game Boy comme la Game Boy Pocket, la Game Boy
Light.
Là, ça n'a plus rien à voir, on est d'accord.
Là, il y a un vrai changement de génération. Hein. On passe sur du processeur haut de gamme, en fait. Risque, attention, ça ne rigole pas.
Alors, de quoi s'agit-il?
C'est un truc d'architecture de processeur. En gros, c'est des processeurs qui sont connus pour être efficace, c'est-à-dire consommer peu d'énergie et réussir à être assez puissant. Donc c'est déjà pas mal. C'est du 32 bits, c'est un processeur vraiment de bonne qualité, parce qu'à 16 MHz, on est quand même dans un truc pas trop ridicule. Mais là, l'idée de génie, c'est de garder un coprocesseur qui est en fait le processeur de la Game Boy originelle, toujours à 8,4 MHz.
Le Z80.
Voilà, le
Z80. Ce processeur-là, on l'a foutu partout.
Qui sert à, je sais pas, à faire quoi. On en trouve dans les imprimantes aussi, hein, pour vous donner une idée. Hein. C'est un truc, ils en ont vendu des palettes et des palettes. Et donc, il est là pour pouvoir assurer la rétrocompatibilité complète, quoi. Et ça, c'est vraiment une idée de génie.
Donc finalement, c'est un petit peu comme ce qu'a fait la PlayStation 3, les toutes premières versions, c'est d'avoir deux processeurs dans la machine.
Quand tu veux pas te faire chier à faire un émulateur, etc., surtout que ces machines-là n'ont pas la puissance de faire ça, le seul moyen, c'est de remettre la puce de la première bécane dedans.
Donc c'était le cas aussi de la PS2 d'ailleurs, sauf que c'était intégré à une autre puce.
C'est la puce qui gère la tête de lecture de la PS2, la puce qui gère la tête de lecture, c'est en fait une PS1. c'est ce qui est assez énorme. Mais effectivement, là, pour le coup, on a 96 kilo-octets juste pour la mémoire vidéo. Donc, on a ça n'a plus rien à voir. 256K de RAM. Enfin, il y a plein de petites techniques qui font que la machine n'a plus rien à voir. Et l'écran, c'est 240 par 160.
Bah, voilà, justement, c'est là où je trouve que c'est assez étonnant, mine de rien. C'est que du coup, technologiquement, c'est un peu plus puissant. Hein, on se rapproche un peu plus d'une Super Nintendo.
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est la Super Nintendo de la NES équivalente. Quoi.
Mais en revanche, en résolution d'écran, on n'est pas. C'est pas foudroyant, hein. Ça reste assez sommaire
ouais,
quand même.
Mais il faut se rappeler qu'on est en 2001, que les technos d'écran plat, etc., ça coûte encore des blindes, que les histoires de pixel mort, etc., on est encore en plein dedans sur les écrans un peu plus d'haute définition. Ils sont restés sur des technologies hyper safe, en fait, hein, et qui ont déjà eu des problèmes. Parce que des gens qui ont eu des problèmes avec l'écran de celle-là, il y en a eu. Mais on passe quand même à 32 000 couleurs, on passe sur quelque chose de bien, bien, bien plus performant. Et surtout, ils ont essayé de bosser sur un écran où, malgré la résolution, il y avait moins de rémanence. Parce que le problème justement des jeux à scrolling etc c'est que c'était pas terrible sur les anciennes
Game
Boy.
Ça bavait
gravement même.
Là l'écran était pas mauvais en soi si ce n'est qu'il avait un gros défaut encore hein, qui était le rétroéclairage.
Voilà.
Parce que justement Kev, il y a quelques instants tu parlais de couleurs. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée sur la Game Boy Color il y avait une palette de 32 768 couleurs très précisément hein, ce qui est exactement la même palette que sur la Game Boy Advance mais la différence elle se fait sur les couleurs que la machine peut afficher simultanément. Et sur Game Boy Color c'était selon les modes soit 10 soit 32 soit 56 couleurs maximum mais du coup quand on était à 56 il y avait moins de on pouvait afficher moins de choses alors que sur la Game Boy Advance on est avec en simultané à 511 couleurs donc quand même ça veut dire qu'on multipliait par 10 le meilleur des affichages possibles de la Game Boy Color de l'époque. C'était déjà un beau changement. Julo, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, non mais Raon l'a dit, mais effectivement encore une fois Nintendo ne voulant pas sacrifier l'autonomie etc une fois de plus on se retrouve avec un écran, voilà, on change de bécane, on a un truc technologiquement vraiment supérieur, mais toujours un écran qui n'est pas rétroéclairé.
Alors ça, c'était quand même probablement la déception de la machine. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait.
On s'est retrouvé comme avec la toute première Game Boy, à vouloir trouver de la lumière.
Je me souviens très bien qu'on avait tous craqué, on a tous pris des Game Boy Advance à se friter sur F-Zero et machin,
grand souvenir.
C'était heureusement qu'on avait des lampes de bureau, quoi, tu vois.
C'est ça.
Non, moi, pour vous pourrir, j'étais uniquement dans les chiottes. Pour vous pourrir et pour
grâce au grand néon
et pour pouvoir prendre la photo parce qu'il faut quand même que les auditeurs sachent qu'on est devenu très très con avec F-Zero comme ça a commencé à cheater. On a commencé à s'envoyer des photos par ICQ d'ailleurs à l'époque je crois où on s'envoyait des photos de l'écran pour prouver qu'on avait bien fait le bon chrono quoi.
Moi, je me rappelle encore avec Candy on s'appelait parfois parce que on avait les deux meilleurs temps et on s'appelait parfois à 4h du matin et
c'était moi
et on se voit les trucs. Il y avait du Candy aussi.
Toi et moi, en fait, on avait trouvé le
passage secret,
le raccourci,
l'endroit. Et donc, parfois, la personne laissait un message, comme on savait que s'il y avait un message à 4h du matin, c'était pour dire je t'ai battu. On n'écoutait même pas jusqu'au moment où on rappelait une demi-heure après. Perdu, ça y est, c'est moi qui ai le nouveau meilleur temps. Sauf que la personne entre temps te rappelait dans la foulée. Mais non, c'est moi. Enfin, c'était génial. Et on avait baissé les scores et une fois de plus, on pouvait jouer à 4 en simultané avec même style que sur la Game Boy.
C'est grâce à vous qu'on a abandonné.
Voilà.
On est passé à autre chose, nous.
Nous, on a lâché l'affaire. On est revenu sur des vrais jeux.
Mais c'est vrai que c'est vrai que c'était des grands moments avec. Mais vous inquiétez pas, en fin de podcast, hein, d'ici une petite. Allez, un petit quart d'heure, on va parler de tous ces jeux hein, qui ont vraiment fait l'histoire de la Game Boy.
Elle avait une forme
normale
particulière aussi, cette Game Boy Advance.
Elle avait une forme particulière, mais ça, on en parlera dans les anecdotes. Parce que justement, la forme, je vous dis juste en petit teaser, elle a une forme spéciale qu'on appelle en tête de panda. Pourquoi ? Eh bien, vous découvrirez ça dans quelques instants. Alors, la Game Boy Advance, c'est une chose, hein, et elle a très très bien marché. Mais elle a été suivie quelques temps après, finalement un peu moins de deux ans plus tard, par la Game Boy Advance SP, qui est sorti d'ailleurs au Japon le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, et le 28 mars 2003 chez nous. Qu'est-ce qu'elle apportait à cette machine? Enfin, j'ai envie de dire, là, il y a une vraie révolution.
C'est tellement ma préférée de la liste.
C'est la version ultime.
Vraiment ma préférée. C'est celle qui est en fait avec un écran rabattable, avec un rétro éclairage.
Voilà.
Déjà, là, c'était le bonheur. Et en termes de design, je sais pas, elle est mignonne. Elle est pratique à utiliser.
On rappelle un petit peu, justement, autant la Game Boy Advance normale était donc vue de face, quoi, latérale.
Ouais, comme une Game Gear
mais
avec une autre forme, quoi.
Sauf que la SP, justement, elle rappelle plus les Game & Watch.
Ouais, exactement. C'est un Game & Watch vertical, comme on avait pu avoir dans les années 80, et qui se déplie en deux, en fait, donc verticalement.
Et elle était carrée.
Comme la DS d'aujourd'hui, finalement.
Et complètement.
Elle était carrée.
Et elle était carrée, ouais.
Bien carrée.
Elle était super
très étroite. Hein,
repère hyper solide.
Très fine.
Et on sait c'est ouais. bien quand c'est étroit.
Mais c'est vrai que c'était tendu à utiliser. J'essaie de continuer. Tout va bien, merci mec. Elle était balèze à utiliser avec les gâchettes, du coup, ouais. Parce qu'elle était assez petite en fait.
Angel.
Et surtout, il n'y avait plus de piles. Ils avaient introduit la batterie.
Exactement.
Et ça, putain, quel bonheur
aussi. Et ça sauvait la vie.
Ben voilà, justement, c'est effectivement ça que je voulais dire. C'est la première Game Boy à enfin franchir le cap de zapper les piles et de passer vraiment d'être rechargeable, hein, tout simplement, avec le secteur. Elle était rétroéclairée, elle avait justement une batterie justement qui lui assurait une belle autonomie, mais en plus, pas la peine de racheter des piles. Et du coup, elle était plus légère aussi, ouais, ça c'est ouais. l'autre bienfait, plus fine. Elle était toujours rétro-compatible et elle avait un écran... strictement de la même taille, mais qui était un peu plus lisible aussi, au-delà même du rétroéclairage. Hein,
il
un
était
peu plus
bien
fin.
Meilleur.
Enfin, déjà, le rétroéclairage, de toute façon, ça changeait tellement la vie. Ouais. On avait tellement pesté sur la version précédente, qui était la version d'origine, quoi.
Quand ça arrivait, t'avais arrivé. Vraiment l'impression Julo. D'avoir un petit bijou, quoi. Moi, franchement, de toutes les consoles Nintendo ouais. sorties à ce jour, quoi, c'est juste la plus grande réussite qu'ils aient fait. Quoi.
Mais je joue toujours à Golden Sun dessus, moi.
Ouais. Ah bah Golden Sun, on en reparlera dans quelques minutes. Hein. Mais justement, c'est aussi l'une de celles qui a connu le plus de versions éditions limitées,
ah oui, oui.
De redesign, enfin le même design, mais d'autres.
Des couleurs improbables de coque.
Voilà, il y a une version NES rétro, il y a une version Zelda, il y en a tellement.
Il ouais, y en a un paquet, ouais. Il y a un truc avec la Triforce, je crois, dessus.
Ouais,
une
ouais, dorée. C'est la dorée.
Elle est dorée.
Celle-là, je veux même pas savoir la cote d'occasion.
Ah bah, je te la sors du placard. Je te la sors. Vas-y.
Le podcast va s'arrêter.
Quel est ton prix, mon ami? Quel est ton prix? En plus, elle est en édition collector à 500 exemplaires dans le monde, dédicacée par Miyamoto. Et j'ai le certificat qui le prouve. Okay. Tu la veux?
Attends, tu veux que je donne ton adresse sur le podcast?
À bientôt sur eBay. Et puis voilà, c'était juste en fait l'avant-dernière Game Boy à ce jour, en tout cas, peut-être une surprise de Nintendo dans les mois, années à venir, mais en tout cas, estampillée purement Game Boy, il en a eu une dernière qui est récente finalement, puisqu'elle date de septembre 2005 et novembre 2005 chez nous. Il s'agit de la Game Boy Micro, et alors là, elle porte diaboliquement bien son nom. Elle s'est pas très bien vendue. Hein. En termes de vente, c'est même celle qui a le moins bien marché, hein, seulement 2,5 millions d'exemplaires. Et pourtant, elle est, je crois que Angel l'a particulièrement aimée, elle est d'une finesse, mais incroyable.
Pour moi, justement, alors Julo qui disait que c'était le meilleur objet issu de chez Nintendo, pour moi, c'est clairement la Game Boy Micro.
Putain, je la déteste.
Elle est super bien finie, elle est plutôt classe, elle fait pas toc. Tu la perds dans ta poche. Parce que c'est ça, hein, tu la perds dans ta poche.
Ouais, elle fait 10 cm sur
et
5.
Et tu ne peux pas imaginer le kiff que c'est de sortir ça dans le métro, mais vraiment de ta petite poche en été, et de te faire un Street Fighter dessus.
Alors,
effectivement, c'est incroyable.
La Game Boy Micro, elle tient vraiment dans la paume de la main, là, très honnêtement. Mais alors, du coup, l'écran était beaucoup plus fin, enfin plus petit aussi.
C'était
un peu gênant quand même pour la
lisibilité. Il faisait deux tiers de l'écran d'une USB.
Ça ne m'a posé aucun problème en balançant plein de boules de feu Street Fighter, non mais je vous jure, enfin, tu passais de la borne d'arcade à 10 ans plus tard.
Mais
le
on ressentait déjà ça avec la toute première Game Boy Advance, hein, quand on jouait à Final Fight, etc. C'était aussi ce kiff-là, c'était de pouvoir s'imaginer d'avoir ces jeux d'arcade dans la poche, ces Super Nintendo dans la poche, etc. Et pour revenir à ce que vous disiez il y a un instant, l'écran a été amélioré, il me semble aussi, sur la Game Boy Advance Micro.
Ouais, il est très bonne qualité d'écran effectivement, mais par contre très petit.
Il était encore plus lisible que celui de la SP, parce que je sais pas si vous venez sur la SP, on voyait un peu le rétroéclairage sur les côtés, etc.
Il avait une super définition.
Ouais, il avait une définition super. Et puis alors, je voulais rajouter quelque chose, mais c'est pas grave.
Écoute.
Je vais me taire parce que je l'ai oublié.
Il y a un moment, tu lèveras la main et puis on se reconnectera avec ton cerveau. Il y a pas de souci, Julo.
Elle pèse 80 grammes la Game Boy Micro.
80 grammes. Ouais, non, mais vraiment. Par contre, technologiquement, c'est un vrai petit bijou. Hein, pas de puissance, mais de design et de.
C'est vraiment un truc designé pour les mains d'enfant. En revanche, parce que pour moi c'était vraiment insupportable à utiliser, j'avais vraiment mal aux mains. Enfin, tu vois, tu peux pas utiliser tout le temps.
En même temps, tu vois, tu passes des mains d'enfant, t'oublies de dire que c'est peut-être parce que t'as des pattes d'ours, quoi. Non, mais je te jure, hein.
Oh non, regarde, j'ai des belles mains de pianiste.
Parce que moi j'ai des mains plutôt normales et vraiment j'ai pris un pied monstrueux, quoi.
On a compris, t'as aimé, mais c'est vrai que c'est sur le truc, je la trouve. Et par contre, c'est ouvert à débat, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle s'est pas super bien.
Ah, bah, justement, moi j'allais dire, enfin, alors c'est probablement une des raisons. Mais il y a aussi le fait que la DS était déjà sortie.
Ouais, elle est sortie avec un timing assez pérable.
Donc c'était un petit peu du cannibalisme.
Et puis elle se voulait être un objet un peu hype avec des faceplates, un peu comme la Xbox 360. On pouvait changer la devanture, la façade,
coque, ouais.
La coque de sa Game Boy Micro.
juste.
Ouais, non, sinon.
Ça a apporté quelque chose pour la collectionniste?
Non, aucun. Aucun. Non, mais effectivement, t'as raison. Nintendo avait voulu. Elle l'avait sorti, je pense, dans l'optique d'en faire.
C'était un peu tendance.
D'en faire la Game Boy, la Game Boy un peu hype, que justement, que tu perds dans ta poche. Tu vois, même en portant un CR, tu pouvais la mettre dans ta poche, même avec un slim ultra serré. Tu vois, ça dérangeait pas.
Génial.
De toute manière, les gens qui portent des slims se doivent d'être perdus à jamais. Donc, c'est vrai. Bien.
Mais
c'est regarde, c'est mon avis.
Mais si vous avez un slim, on vous aime.
Non, donc tu pouvais vraiment la transporter partout, quoi. Et ils avaient voulu en faire un objet tendance, mais ça n'a pas trop bien marché.
Je te confirme même que ça n'a pas du tout pris, hein, puisque si la Game Boy Advance, on va dire, toutes versions confondues, c'est vendu à quasiment 80 millions d'exemplaires, hein, on le rappelle. Hein, Game Boy, première du nom, enfin, comment on dit, première Game Boy, qui
d'origine,
compte donc la Pocket, la Light et la Color, c'est quasiment 120 millions d'exemplaires. Deuxième console la plus vendue de tous les temps. La gamme des Game Boy Advance, c'est quasiment 80 millions d'exemplaires, dont seulement 2,5 millions de Game Boy Micro. Donc effectivement, c'est infinitésimal par rapport au succès de la Advance et surtout de la SP. Voilà, c'était le tour qu'on pouvait faire un petit peu sur, on va dire, le tour technique, hein, de ces machines-là. Mais alors, il reste tant à dire que ça concerne les accessoires originaux. Et vous allez voir, il y en a qui sont complètement sacrément débiles. Mais aussi des anecdotes. Et alors là, des anecdotes sur la Game Boy, vous allez voir, il y en a des assez gratinées avant de conclure sur vraiment les jeux qui ont fait forger la légende de cette machine. On va commencer rapidement avec les accessoires originaux. Et rappelez-vous de ce duo d'accessoires qui était la caméra et l'imprimante qui permettait sur certains jeux, enfin en gros plutôt qu'un, de pouvoir se prendre en photo avec l'AI. Le AI d'ailleurs, ils avaient déjà qui était là. On pouvait la tourner et puis on pouvait s'imprimer après sur une petite imprimante avec des stickers autocollants. Ça cartonnait au Japon. Et
la caméra, c'était une petite boule en fait. C'était une cartouche surmontée d'une petite boule, voilà, comme on voit des petites webcams aujourd'hui qu'on pose sur les écrans des PC, etc. Et bon, alors, je sais pas si vous l'avez utilisé. Mais
ah ouais, moi j'adorais.
C'est vrai?
Ah, mais j'ai adoré. On pouvait faire des montages. Je trouve qu'en fait, ça me rappelle un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui sur DSi avec la galerie dessin. C'est-à-dire qu'on pourrait ajouter des stickers, mettre des petits mots, faire des modes miroirs, ce genre de choses. Et puis ça me rappelle aussi un peu WarioWare. Parce qu'il y avait aussi. C'était donc un accessoire pour faire de la photo. Mais il y avait quelques petits jeux qui l'utilisaient. On pouvait se prendre en photo, son visage, etc. Et c'était intégré sur des vaisseaux. Et le style de ces petits jeux était complètement barré et me rappelle un petit peu aujourd'hui ce qu'on voit avec WarioWare. Raon,
nous ça nous paraît un petit peu bizarre le plan, j'achète une petite caméra puis j'imprime des photos, c'est rigolo et tout, mais ça, on classe ça dans les accessoires bizarres, mais il faut savoir qu'au Japon c'était déjà une mode très installée dans les salles d'arcade.
Et ça l'est toujours.
Ouais. Ouais. Tu nous rappelles comment ça s'appelle au Japon?
C'est les pellicules.
Les pellicula, voilà. Alors ça, raconte-nous un petit peu parce que.
Bah c'est rarement aller le faire.
Ouais,
hein, sinon,
mais... c'est des espèces de photomaton où tu vas t'imprimer des planches de stickers où tu vas te prendre en photo avec ta copine ou tes potes, etc. Et tu peux rajouter des décors, enfin tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur une DSi où tu vas rajouter
déformer
des cadres,
ton visage,
déformer ton visage, toutes ces conneries-là, voilà. Il y en a eu plein, il y a eu plein de séries, ça a été et il y en a, enfin c'était une manière d'attirer au départ les filles aussi dans les salles d'arcade au Japon, quoi. Donc c'était posté à l'entrée des salles d'arcade. Parce qu'ils mettaient pas, au départ il y avait les jeux, mais ils ont fini par mettre d'abord les pellicules vers l'extérieur pour attirer les ados, etc. Et puis c'était un moment, c'est passé vraiment dans la culture japonaise des ados et des jeunes très rapidement, et c'était déjà très installé quand c'est sorti sur Game Boy.
Il y a une nana qui a tenté d'apporter ça, je crois, à Paris, dans les alentours de la rue Sainte-Anne, évidemment.
Mais il y en a peut-être encore un ou deux qui doivent traîner.
Mais en tout cas, ça fonctionnait super bien, c'était en noir et blanc, et puis donc on le sortait sur une espèce de petite imprimante qui ressemble un peu à une machine pour carte bleue, quand on va au restaurant ou ce
avec
genre de choses.
Hein.
Voilà, et ça imprimait finalement assez rapidement, et puis après c'était sur des stickers autocollants, c'était plutôt vraiment vraiment sympa. Y avait d'autres accessoires aussi qui sont sortis, et j'en pense en particulier à un... Assez déroutant aussi, c'est le e-card reader. De quoi s'agit-il?
Alors, je me souviens plus des détails, mais en fait, en gros, c'était un accessoire qui lisait des espèces de code barres qui étaient sur des cartes qui étaient vendues séparément, mais je sais plus pourquoi.
Ça mélangeait tout simplement les fameuses collections de cartes tirées de dessins animés, etc. Tu les scannais et puis ça faisait apparaître des monstres dans tes jeux, machin, etc. Enfin, ça a été
utilisé. À la Yu-Gi-Oh! Et compagnie.
Mais le truc était assez gros, du coup, par contre, par rapport à un PlayStation qui était grosso modo de la taille d'une cartouche avec la petite boule dessus, ça c'était un peu plus gros le e-card reader.
c'était un petit peu plus gros, et puis effectivement ça n'a pas vraiment pris hein, à la base Nintendo voulait le démocratiser un peu, puis c'est pour ça qu'ils avaient commencé avec les Pokémon, mais en fait
mais non, ça, ça les a pas empêchés de faire un jeu de cartes à collectionner Pokémon qui a marché très très fort, presque, c'est peut-être le même d'ailleurs le seul jeu de cartes à collectionner qui a marché aussi fort que Magic à ma connaissance.
C'est ma foi fort possible. Autre accessoire assez sympa, enfin c'est pas vraiment un accessoire mais c'était dans un jeu, c'était les billes au mercure qui étaient dans certains titres de flipper par exemple, et qui permettaient pour la première fois de, en inclinant sa console, eh ben de faire réagir le jeu.
Et de faire tilter.
Et de faire tilter, ouais.
C'était des senseurs de mouvement avant l'heure.
Il y a eu d'autres trucs.
T'as eu ça dans WarioWare Twist, c'est de ça que tu parles ou pas?
Non, bien avant. C'était. Il y avait, je crois, c'était Metroid Pinball ou un truc comme ça. Et puis il y en avait même un encore avant, je crois que c'était avec des Pokémon. Une fois de plus, généralement, je crois qu'ils ont un peu essuyé tous les plâtres.
Non,
tu peux tout faire. Voilà.
Tu pouvais tout faire passer avec Pokémon.
Mais il y avait.
Même un Safari Photo alors.
Oui, c'est vrai. Et en tout cas, il y avait l'utilisation comme ça sur, allez, à mon avis, à tout casser 5 jeux de cette fameuse bille au mercure qui se retrouvait dans les jeux.
Il y a eu également Boktai. Donc le jeu de ton maître à penser, Kojima.
Hideo Kojima.
Voilà, qui captait la lumière du soleil et qui ça rechargeait en fait tes armes dans le jeu, etc. Ça permettait de...
Alors justement, je me rappelle pour Boktai, il y a eu une petite polémique à la sortie de la SP, puisque justement, le sens d'insertion des cartouches était inversé par rapport à celui de la Game Boy Advance. Ouais, c'est-à-dire que la Game Boy Advance, on le mettait en haut, et du coup, le capteur solaire était bien montré vers le ciel, quoi, alors que sur la SP, c'était... en dessous, et donc c'était dans ses mains. Et du coup, quand on jouait, on faisait de l'ombre, et du coup, on pouvait pas jouer globalement à ce jeu, ce qui était un petit peu ennuyeux quand même. Je crois qu'Angèle, tu voulais rajouter quelque chose concernant certains accessoires.
C'est pas vraiment des accessoires, c'est un détournement de l'utilisation de la Game Boy d'origine. Il y a eu toute une scène donc, musicale qui utilisait la Game Boy, qui servait de la Game Boy comme séquenceur, sampleur et compagnie, donc pour faire de la musique un peu minimaliste. Et donc il y a eu des mecs quand même plutôt balèzes et carrés qui ont carrément lancé des albums. Il y a Alec Empire par exemple. Et en France, oui.
Nintendo, ils sont déguisés en gros hamster.
C'est moins sérieux, mais voilà.
Ah ouais, mais ça déboîte. Ils font des remixes de Daft Punk, etc.
Ils étaient à une soirée que j'avais animée pour un truc pour Microsoft et c'était terrible.
Et puis voilà, à tel point que Malcolm McLaren, le fameux producteur, le mec qui avait révélé les Sex Pistols, avait écrit dans un article de Wired, mais bon, il lui écrit beaucoup de conneries hein, quand même, que c'était le nouveau punk rock, que c'était le punk rock des années 90.
En tout cas, c'est intéressant parce que tout à l'heure, Cap, justement, quand tu parlais un peu techniquement de la première Game Boy, hein, on disait que c'était quand même assez faible, sauf la partie sonore, qui pour l'époque en tout cas était plutôt bonne. Et il y a beaucoup de personnes qui font donc de la chip tunes, comme on appelle ça, qui recherchent vraiment activement les bonnes vieilles Game Boy, les toutes premières, parce que le son est très particulier.
C'est un mouvement en fait global, parce qu'il y a deux trucs qui cartonnent sur ces vieilles séries, ces vieilles puces. C'est ça et la puce du Commodore 64 qui s'appelle le SID. Qui est vendu sous forme de carte ou même de synthétiseur complet, et ça coûte une blinde alors que la puce coûte que dalle, et parce que voilà, c'est une sonorité extrêmement particulière qu'on peut complètement faire en fait par synthèse logicielle, etc. Mais c'est vachement plus hype, et les mecs les volent sur scène aussi, tu vois, donc,
oui, c'est ça.
Ils font des synthés machin, et le talent des mecs qui font les trucs Game Boy, c'est que les mecs utilisent vraiment des Game Boy avec vraiment des logiciels faits spécialement pour le truc,
codé pour
là, bon courage quoi.
T'as des gros trucs hein, t'as Nanoloop qui avait été développé justement, il y avait une version,
mais
Nanoloop,
une vraie scène quoi.
Nanoloop, ouais, exactement.
C'est un peu comme le vinyle en fait hein, ça revient grave à la mode, enfin la mode, j'aime pas ce mot là, mais enfin c'est très utilisé et comme la Game Boy finalement.
Les artistes, parce que c'est une scène indé mais qui a envie de rester indé, donc c'est pour ça qu'elle reste quand même
ils font
dans
plaisir long. Ils font plaisir les mecs hein.
Allez, on va passer au grand chapitre des anecdotes, vous allez voir c'est particulièrement gratiné. On va commencer, tout à l'heure on vous parlait de la tête de panda concernant la Game Boy Advance. Et est-ce que vous saviez que c'est un Français qui s'appelle Gwenaël Nicolas qui en fait a designé la Game Boy Advance? Probablement pas. Raon va vous expliquer tout ça.
C'est tout bête, c'est que Nintendo a donc demandé à ses designers en interne évidemment de créer le design de cette nouvelle machine, et la plupart en fait des designs qui ont été proposés à l'époque étaient très similaires à ce qui se faisait à côté, que ce soit les Game Gear, les machins, les trucs. Et Nintendo n'était pas satisfait de ça, donc ils sont rentrés en contact avec ce designer pour essayer d'avoir un nouveau regard. Et lui, il a fait plein de versions de la console. On dit qu'il en aurait fait une en forme de fleur. enfin qui avait, il a exploité plein de formes différentes, et celle qui a finalement donc été retenue est censée évoquer une tête de panda, voilà. Donc celle de la toute première Game Boy Advance, hein, qui est effectivement un petit peu arrondie sur le dessus, avec avec les deux boutons en fait de la tranche.
Je vois les oreilles un peu, mais sinon,
c'est ça.
Ouais, c'est léger.
Faut avoir une imagination fertile pour y voir un panda.
Ça pourrait être une tête de Mickey. Ça pourrait être une tête, en gros, un gros truc avec des grosses oreilles. Quoi.
L'idée, c'était surtout de sortir du design cubique, enfin pareil, le rectangle à la con, carrés, quoi, voilà, qu'il soit verticaux.
Ouais, changer l'orientation de la Game Boy aussi. Ça, c'était parce qu'on s'en rappelle à l'époque lorsqu'il y a eu des fuites, des images qui sont sorties et tout, les premières Game Boy Advance, entre guillemets, étaient dans le sens vertical comme la première Game Boy l'était. Et effectivement, quand on l'a vu arriver à la fin, on a été assez surpris. Et puis c'était l'introduction un peu des écrans 16/9 aussi.
Voilà, alors que Nokia qui a tout compris, des années après, est arrivé avec un écran vertical.
Alors ça, mais...
Bravo Nokia.
J'avais été à la soirée de lancement de la N-Gage.
Mais j'en rigole encore.
Ça m'avait choqué, ouais.
Ouais, mais j'avais posé la question.
C'est quand même pas possible, quoi.
Ouais, ouais.
Pour une machine verticale, hein,
ouais,
en
voilà,
plus. Hein.
Ouais, voilà. Alors qu'ils avaient le design qu'il fallait. Bah, non, il y a des gens qui ont tout compris, tu peux pas test.
Je crois que c'est un peu l'idée. On parlait d'accessoires il y a quelques instants. Bah, on a certains qui nous ont fait sourire, hein, mais en tout cas, c'était vraiment purement des accessoires de jeu. Il y a des accessoires de malades mentaux, des trucs complètement fous qui sont sortis sur Game Boy, alors de manière plus ou moins officielle, hein, en tout cas pas Seal of Quality Nintendo. Mais je pense par exemple au Pedicedate. De quoi s'agit-il, Raon? Oui. C'est un casque qui anesthésie en douceur.
Ouais, enfin, c'est il y a eu plusieurs aux États-Unis. C'est américain, hein, ça. La Game Boy donc a eu le succès qu'on connaît. Et il y a des gens qui se sont dit, bah, il faudrait utiliser ça pour les gosses, pour quand on a des problèmes dans les salles d'attente ou les trucs comme ça. Et qui ont commencé, enfin, dans le corps médical, à développer un certain nombre d'accessoires. Donc, il y avait effectivement le Pedicedate, qui est lui une espèce de casque un peu, tu vois, avec un design un peu futuriste, qui se branche à la Game Boy, avec un truc qui se rabat sur le.
Un peu
sur
un casque de réalité virtuelle, quoi.
Ouais, sauf que c'est pas devant les yeux que t'as le machin, ouais, le rabat, mais devant le nez. Et en fait, pendant que le gamin joue, ça diffuse de l'anesthésiant et ça permet au gamin de pas flipper, tu vois, dans la salle de l'anesthésiste, etc., pour certaines opérations ou pour d'autres trucs comme ça. Ça, c'est un des accessoires. Il y en a un autre qui était.
Oh, je t'en prie, laisse-moi juste dire le nom.
Vas-y, ok.
Parce qu'il est fantastique. Le Glucoboy. Qu'est-ce donc que le Glucoboy?
C'est un accessoire pour les.
Diabétique.
Pour les diabétiques.
Pour les diabétiques, voilà, c'est ça. En fait, c'est un jeu. Enfin, il y a deux jeux sur la cartouche.
Ouais, c'est ça. C'est que ça va au-delà de l'accessoire. C'est passionnant.
Non, mais c'est tout con comme idée. C'est pour apprendre aux gamins à faire attention à leur taux de sucre. La cartouche est comme un petit peu comme le PlayStation, n'importe quoi.
Le Game Boy,
la caméra Game Boy et d'autres dépassent. Elle est fournie avec un autre accessoire qui leur permet de mesurer en fait le taux de sucre qu'ils ont dans le sang.
Glucose, ouais.
Et ça leur rapporte des points. Et
ça s'appelle les glucose reward points.
C'est ça. Et les GRP, donc, tu peux les dépenser dans les deux jeux qui sont embarqués sur la cartouche.
Je trouve ça absolument super.
J'y pense, s'ils avaient pu faire la même chose avec un éthylotest.
Il faut savoir que justement, une des applications qui cartonne le plus sur iPhone actuellement, c'est un truc exactement comme ça, en fait, pour mesurer le truc de glucose et compagnie. Ouais.
Pour les diabétiques.
Pour noter exactement où ils en sont, etc. Faire un. Savoir exactement.
Un petit check-up,
avoir une trace exactement tout le temps. Les mecs disent que ça leur a changé la vie.
Ouais, mais ça n'aura jamais la classe du Glucoboy, je le répète. Hein.
Le Glucoboy, c'est un nom du. Ça fait Pip Boy, ça fait très Fallout.
C'est vrai.
Je trouve ça absolument génial. Et puis effectivement, le fait que, tu vois, qu'ils aient réussi à bien l'intégrer dans un jeu, etc., ça rend la démarche super intéressante.
Ouais.
Et je trouve que c'est en tout cas un bel accessoire, une belle idée. D'autres anecdotes toujours, vous allez voir. Une que tout le monde connaît, hein, ça on va pas se le mentir, mais qui est quand même assez hallucinante. Si vous avez la chance de passer à New York, eh bien faites un petit détour par le Nintendo World Store. Alors déjà, c'est plutôt sympa. On y voit un peu toute l'histoire de Nintendo. Il y a des pièces qui sont dédicacées par Shigeru Miyamoto moto en personne, et puis dans un coin, c'est à l'étage, se trouve une Game Boy complètement fondue et qui a donc survécu à la guerre du Golfe. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, Nintendo, je crois, balançait carrément des Game Boy pour les soldats.
Ouais, ils en ont distribué aux soldats américains. Et l'histoire de cette Game Boy, elle est juste ouf parce qu'en fait, ils se sont pris un bombardement sur le coin de la tronche. Donc tout a cramé, la Game Boy aussi. Ils ont fini par la retrouver dans les décombres et elle marchait encore. Et elle marche toujours en l'heure actuelle. Elle tourne 24 heures sur 24.
Faut voir la gueule qu'elle a par contre.
Évidemment, elle est méconnaissable. Faut savoir que la Game Boy, là-bas, elle est blanche. Donc je pense qu'il n'y a plus aucun endroit de cette Game Boy qui est blanc.
Elle a fondu. Hein.
Voilà, c'est une espèce de tas de plastique fondu, mais l'écran fonctionne, enfin tout fonctionne quoi.
Mais est-ce que vous pensez pas que c'est cette Game Boy là qui mériterait vraiment le titre de Panzer Game Boy?
Ah bah ouais, clairement.
C'est la vraie, ouais.
Mais c'est marrant que la coque est fondue, mais que les composants, le silicium, lui, oh bah non, tout va bien.
Surtout que l'écran marche toujours quoi.
Ouais, ouais.
Elle est en ce moment même encore sur en on tourner. Et elle tourne avec Tetris dessus.
Exactement, donc en fait, c'est celle qui est la plus résistante au monde. Voilà, c'est un exemplaire unique. Autre anecdote toujours, cette fois-ci, on part en Hollande avec un artiste qui s'appelle Gijs. Je sais pas trop comment. Gijs. Enfin, G-I-J-I-S.
On n'est pas super calé en.
Gijs. Et alors, lui, c'est assez sympa comme idée. Lui, il trouve que la Game Boy, bah, c'est arty, c'est classe. Et du coup, bah, il fabrique des briques artistiques en forme de Game Boy.
Alors, non, c'est pas des briques artistiques, c'est des briques qu'on peut utiliser. Vraiment, c'est des vraies briques.
Mais du coup, c'est au design de la Game Boy.
La vraie Game Boy, la première, la blanche.
La toute première, ouais, voilà. Effectivement.
Parce que faire des briques avec la Game Boy Advance, c'était en galère quand même.
Ou la Game Boy Micro, c'était une petite brique. Enfin bon. Donc oui, mais c'est un mec qui fait plein d'autres trucs à la main. Enfin, c'est un artiste un peu connu parce que voilà, le truc de la Game Boy est sorti. Mais effectivement, tu peux acheter pour 10 dollars ou 10 euros. Une brique. Enfin, tu peux en acheter plusieurs si tu veux, mais c'est 10 euros la
maison,
brique.
A priori, il en faudra quelques-unes quand même.
Et donc, elle a une façade en forme de Game Boy, en fait.
Pas mal. Notre ami Gijs.
Il y a plein de...
Trop comment.
C'est devenu un objet tellement... iconique quoi dans la culture moderne qu'il y a certainement plein d'autres œuvres et plein d'autres artistes qui l'ont casé d'une manière ou d'une autre dans ce qu'ils faisaient. Ouais.
Alors justement, en parlant de choses un peu iconiques, il y a parfois les versions un peu plus underground, l'histoire cachée, la vie qu'on ose révéler. Et bien sachez qu'aux au Japon, il y a une Game Boy Light Collector faite avec Famitsu, donc le célèbre magazine japonais de jeux vidéo. Et celle-là, elle est officielle, hein, Nintendo, et pourtant, on pourrait vraiment se poser la question, vous allez comprendre pourquoi, hein.
C'est surtout le packaging, en fait, parce que la machine elle-même, elle est juste avec une coque transparente. Et alors, je ne sais pas si c'est des marketeurs japonais ou pas, mais le dessin fait très comique américain. C'est une cosmonaute qui regarde cette Game Boy avec un décolleté de ouf. Et elle a un alien sur l'épaule qui regarde aussi dans le décolleté ou la Game Boy, mais tu sais
avec
pas trop.
Avec une langue pendante, voilà. Et dégoulinante.
Juste pour, en fait, parce que parce qu'elle est transparente, quoi. Parce que la coque est transparente. Ce n'est pas la première machine transparente qu'ils ont sortie, mais bon. Et ça fait un peu bizarre de voir effectivement une Game Boy officielle, quoi, donc marquée Nintendo et tout, avec un visuel un peu...
libidineux.
Voilà, ouais.
C'est pas dans les habitudes, effectivement, de Nintendo, hein, puis vous comprendrez que ça n'est jamais sorti ailleurs qu'au Japon.
Bien sûr.
De toute manière, la Game Boy Light n'est jamais sortie en dehors du Japon. Et puis, tout à fait entre nous, d'ailleurs, bon, elle était pas si extraordinaire, hein, le rétro-éclairage de la Light. Hein.
À l'époque, moi, ça me faisait kiffer. Hein. Ouais. L'idée, bah ouais, attends, il n'y avait pas encore
Y avait
de
pas
Game Boy.
Il n'y avait pas d'équivalent, surtout. Ouais, quoi. Bah ouais. C'était ça où la lampe qui se clipsait dessus, t'avais l'air malin. Quoi,
ouais, bah, c'est ça, d'ailleurs.
Ta grosse loupe pourrie. J'ai jamais compris le coup de la loupe, moi, d'ailleurs. Je trouvais ça...
Ah, bah alors, écoute, moi, j'ai eu un accessoire de l'espace, quoi, sur ma première Game Boy. C'en était un. En fait, c'était un gros truc énorme que tu mettais par-dessus, donc ça rendait vraiment la console gigantesque. Alors, ça se dépliait, ça faisait une loupe qui était elle-même rétroéclairée, et sur les côtés, ça se dépliait dans le sens horizontal, et c'était deux enceintes, parce que ça se branchait aussi sur le port casque, et ça amplifiait le son. Et t'avais un joystick qui se mettait par-dessus la croix de direction et deux énormes boutons qui se mettaient par-dessus les deux petits boutons. Et ça prenait complètement la console.
C'était pour transformer ta console portable en console pas portable.
Ah ouais, non mais attends, mais c'était un truc, c'était Star Trek quoi.
Non mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de Robocop, c'était plutôt Transformers.
Parce que tu l'as eu celui-là aussi.
Je l'ai pas eu, mais c'est vrai que j'en rêvais. Et à l'époque, je l'avais vu dans un magazine. Bon, pas terrible, ça s'appelle Joypad, je crois. Et je vous avais dit, ça a l'air génial. Et comme tous, hein, on avait tout le temps un pote bourgeois, hein, genre l'équivalent d'un Mercus, lui il l'avait. Et du coup, j'ai pu toucher. Et en fait, c'était complètement à chier parce que ça tenait pas bien, c'était branli-branlo, ça glissait.
Ouais,
inintéressant total.
Ouais. Heureusement, tu pouvais enlever la partie qui rajoutait un joystick et des gros boutons.
Tu gardais la loupe et ton.
Tu gardais la loupe et les enceintes.
Ouais. Oh, quelle affaire.
J'ai des souvenirs de ces accessoires qui arrivaient tous les mois.
Bah c'est toi qui t'es cogné. Hein.
C'était relou.
C'était quoi le pire accessoire, Ron? avant de se reconnecter aux anecdotes.
Oh là, franchement, je m'en souviens plus, mais tout le monde faisait sa loupe qui était un peu plus mieux, plus machin, mieux éclairé.
Il avait 50 millions.
Et qui tenait toujours jamais très bien.
Non, c'était pourri les trois quarts du temps. Puis attends, les trois quarts en plus se branchaient sur le SSC, genre, on rajoute pas de piles, donc on se branche sur la console. Super pour l'autonomie. Là, pour le coup, non seulement c'était pas intégré, mais en plus c'était des loupiottes pourries et ça bouffait les batteries.
On parlait il y a quelques instants de bourgeoisie, hein, d'amis qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient se payer des trucs incroyables. Et bien justement, ceux-là rêvaient probablement de s'offrir l'un des 18 000 modèles de la Game Boy la plus chère du monde. Alors c'est simple, hein, la coque est en or.
A priori, il y en a peut-être des dédicacés et des machins qui sont peut-être plus chers.
Mais on va dire commercialisés. Ouais. Celle-là, la coque est en or. L'écran est incrusté délicatement de poudre de diamant.
Non, tout de diamant.
Ah, bah, excusez-moi. Tout ça pour, mesdames et messieurs, la modique somme de... Roulement de tambour,
29 500 dollars.
Ouais, c'est pas mal, quasiment 30 000 dollars la console quand même.
C'est la Game Boy de Donald Trump.
Oui, c'est un peu l'idée. Ouais. C'est les problèmes des gens trop riches.
J'aimerais bien savoir quand même combien ils en ont vendu en fait. Et à qui?
Bah, je sais pas.
Paris Hilton, elle a dû en acheter 9 000.
Non, Paris Hilton, elle avait la PSP rose.
Ah, pardon, excuse-moi.
Voilà, parce qu'elle trouvait ça trop bien. Angel?
J'ai une PSP rose et je trouve ça trop bien. Voilà.
Et bien, désormais, dans vos soirées mondaines, quand vous pourrez faire quel est le point commun entre Paris Hilton et Angel Davila, comme ça, ça a l'air improbable. Et ben,
la coupe de cheveux.
Ils ont une PSP rose. Allez, on continue avec, il nous reste encore quelques petites anecdotes. Si je vous dis 1 mètre de haut, 45 kilos, et un artiste et un chef de projet qui s'appelle Jeff Herman, eh bien, il s'agit en fait de, non pas la Game Boy, mais de la Game Man, une Game Boy version gigantesque.
Adulte.
C'est un projet assez sympa. Hein.
C'est un projet de fin d'études universitaires, en fait. Il a fabriqué une Game Boy plus grande qui marche avec des grandes cartouches.
Oui, ça c'est génial. C'est on dirait les gros classeurs.
C'est tout au format. Elle est 6 fois et demi plus grande, que la Game Boy normale. Et donc, il s'est pris en photo. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il en a fait quelques-uns, des jeux emblématiques. Bon, il y a évidemment Tetris.
Il y a Zelda.
Et c'est donc une grande Game Boy qui fait un peu plus d'un mètre de haut et qui marche.
Il a dû les intégrer dans des grosses cartouches.
Quoi.
Ouais, d'accord.
Il a fait un fake, en fait, mais qui fonctionne vraiment avec un vrai écran et cartouches à l'intérieur. Quoi.
C'est assez génial. Et quand on voit les photos, on voit les humains devant, c'est assez déroutant parce que du coup, les touches sont plus grosses qu'une main. Enfin, c'est assez sympa. Et c'est pour ça que de Boy, la machine est passée à Man. Plus la Game Boy, mais la Game Man.
Il a tout le processus de fabrication est expliqué si jamais quelqu'un a le courage d'en refaire une. On sait jamais, hein.
Et de la place.
Et vous l'envoyez chez nous, hein, bien sûr.
Ah bah justement, je saisis cette balle au bon, puisque
t'as vu un
petite anecdote personnelle. Ma première Game Boy, donc la blanche, hein, 89, celle dont je vous disais que pour moi, elle a été très importante dans ma vie de gamer, puisqu'elle a été ma première entrée dans ce monde merveilleux qu'est le jeu vidéo. Eh bien, un jour, l'une de mes sœurs a décidé de jouer à cette machine. Prête-la-moi pour le week-end. Ok, je lui prête. Elle part avec mes parents, je ne sais plus, à Fontainebleau, je sais pas quoi, à la campagne. Et quand elle revient, en fait, elle m'apprend que la console a été volée puisqu'ils sont partis et à un moment, la voiture a été fracturée et la Game Boy volée. C'est pour ça que je lance un appel. Si vous, chez vous, avez une Game Boy de 89, que vous n'en avez rien à foutre, eh bien, envoyez-la à Gameblog. Franchement, vous ferez un heureux. Parce que vraiment, ces consoles me manquent. Vraiment, d'amour et d'eau fraîche, je vous le dis. Vous ferez vraiment quelqu'un de cosmiquement heureux.
On fait quoi si on en reçoit plusieurs?
Eh ben,
on les revendra sur eBay.
Voilà, je ne sais pas.
Merci les mecs.
Allez, on continue. Une autre machine assez intéressante. Il s'agit de Singer. Singer, vous les connaissez, hein, ils font des machines à coudre. Alors dit comme ça,
tu me fais peur.
Le lien avec la Game Boy, bah, il n'est pas évident. Et bah, pourtant, si Singer a fait une édition limitée d'une machine à coudre spéciale se connectant à la Game Boy et permettant sur la Game Boy...
Elle est même vendue avec la Game Boy.
Ah ouais, elle est vendue. Il y a un câble, on reliait et donc on faisait ces petits dessins de motifs à coudre sur la Game Boy, puis après Hunter, enfin Start, bim, c'est parti. Et puis voilà, c'est parti. Comme ça, on faisait ces pixel art, en fait, qu'on pouvait refaire. C'est classe, en fait.
Bah, ils sont servis
se faire coudre.
Et là, d'un coup, t'as envie d'une machine à coudre.
Ouais. Ou pas.
Ils se sont servis de la Game Boy comme interface pour choisir tes motifs de broderie et tout sur cette truc-là. Alors, j'imagine qu'ils ont dû récupérer des stocks, je sais pas combien il y en a, mais que ça a dû leur coûter moins cher que de développer leur propre truc. Et voilà, donc c'est une machine à coudre tout à fait fonctionnelle qui s'appelle Lisec. Le modèle, c'est Lisec et qui est fourni avec une Game Boy.
Eh ben, c'est beau, hein. C'est ça beau, fait... là, les belles technologies.
Ça le... fait rêver.
Le mariage entre les machines à coudre et les jeux vidéo, c'est incroyable. Allez, on finit. Dernière anecdote avec, et c'est triste hein, pour nous, Traz n'est pas là, et pourtant. S'il était là, il serait en train de péter un plomb, tout simplement parce que l'accessoire dont on va vous parler, il s'appelle le iCard, se branchait à la Game Boy, était muni d'une antenne. Et son propos, son but, c'est simple, c'était de permettre de récupérer, comme ça par ondes radio et tout, toutes les informations des courses de Formule 1 directement sur sa Game Boy, avec statistiques, tracés, enfin tout, c'était absolument fantastique. Je suis très étonné de savoir que Traz n'était pas muni de cette iCard.
Parce que c'était pas de la Formule 1. Oh, c'est pour ça.
Il va te fataliser.
C'était des courses automobiles.
Non. C'était des 4 pattes. Genre NASCAR, etc., des conneries comme ça. Bon, avec des circuits différents, enfin il y en a plusieurs qui ça fonctionne mais seulement sur des circuits ricains quoi.
Oui, enfin, je suis connaissant les Japonais, je me serais attendu même à un truc pour les courses hippiques moi, tu vois. Donc,
Oh mais peut-être hein. Peut-être il y a certes de toute façon des tonnes et des tonnes d'accessoires qu'on n'a pas qu'on pourrait citer qui sont tout aussi débiles ou curieux ou
cela dit les accessoires qui quand même ont tout ce qu'on a acheté et dont on s'est servi quand même souvent une fois, c'est par exemple le Link. Le câble pour se brancher et pour avoir sur la console avec Zelda cet idiot de Delphes, je sais pas comment c'était le petit pixie, je sais plus comment il s'appelait, le personnage qui te donnait des indices dans Zelda sur ta Game Boy quand tu l'as branché,
le truc vert en pyjama là,
voilà exactement.
Ah, mais il était pas là encore lui.
Non,
il était pas là dans Link Awakening.
Il a fait son apparition sur Nintendo
64.
Ah bon, moi j'aurais dit avec la version GameCube.
Ah, je vous ai bien piégé. Ah, non.
Twinkle, c'est ça?
Ah bah Twinkle, il est arrivé sur Nintendo 64.
Ah d'accord. Bah,
il est arrivé dans Majora's Mask.
D'accord.
Dans cet épisode incroyablement barré, premier jeu de Eiji Aonuma.
Avec de la bonne drogue.
En tout cas, vous avez compris, hein, moult anecdotes concernant la Game Boy, puis il y en a encore quelques d'autres, hein, mais on va, il est grand temps, je crois, hein, de parler vraiment des jeux qui ont forgé la légende de la Game Boy. Alors, on ne pourrait pas parler de tous, hein, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Alors, on va sélectionner rapidement. On vous a déjà parlé de notre amour collégial, hein, je crois, pour Tetris. Je crois qu'il a fait l'unanimité, hein, que vous soyez gamer, hardcore gamer ou occasionnel, c'est un jeu aussi hypnotique que de qualité, enfin vraiment, puis la version Game Boy était vraiment super bonne.
C'était une vraie bonne version. Ouais.
Vraiment une très très bonne version. Alors tous en fait, on a fait un petit listing et je me suis rendu compte, et à mon grand plaisir, parce que moi ça a été mon deuxième jeu, et un souvenir incroyable, que Gargoyle Quest faisait partie des tops de tout le monde, quasiment. Et alors Gargoyle Quest, c'est une sorte de...
C'est ça qui est génial.
De spin-off de Ghost and Goblins. Ghouls and Ghosts, et donc on incarne une gargouille, c'est un mélange d'action, de scènes d'action et de RPG, et moi je me rappelle qu'à l'époque je ne parlais pas du tout anglais, puisqu'on doit être en 90 ou un truc comme ça, j'étais encore à l'école, j'avais 10 ans, et du coup je devais attendre ma mère tous les soirs pour qu'elle rentre, ou mon père, pour lui dire... Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Comme c'est un RPG, il y a tous les manants à aller voir. Ben et là, lui, il répond quoi? Et machin. Et je me rappelle que pour franchir le premier niveau après, la première fois, on est dans un truc où le mec, juste après, il dit juste va au nord. Il m'avait fallu, je sais pas, 2 mois. Et c'est là où je me rends compte qu'à l'époque, m'étonnes qu'il y avait une belle durée de vie sur les jeux.
Mais on était super patients aussi.
Ah, ben grave, grave. Mais quel grand jeu. Hein. C'était super beau en plus, techniquement.
Un très, très grand jeu. Moi, c'est le jeu qui m'a le plus scotché à la première Game Boy avec le Zelda.
On va parler tout à l'heure, bien sûr.
C'était un jeu long, c'était un vrai RPG, il y avait aussi des éléments d'action.
Il y avait
de
des niveaux entiers où tu pouvais t'accrocher sur les murs.
Et puis c'était marrant de jouer les méchants de Ghouls and Ghosts, quoi, en fait. C'était un peu ça l'idée à la base.
Et puis ce qui est bien, c'est que 20 ans plus tard, je me rends compte qu'effectivement c'était les méchants de Ghouls and Ghosts, parce qu'à l'époque je n'avais jamais joué à Ghouls and Ghosts, donc je ne savais pas. Et puis il y avait des codes numériques qui fallait rentrer à 65 lignes, et je notais tout, et puis te trompais d'un mot, parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque.
Pas de pile de sauvegarde.
Ah non, c'était horrible. Et puis effectivement, éléments de RPG, on pouvait augmenter sa force, le temps où on volait.
Voilà, enfin, c'était vraiment un grand jeu. Qui mélangeait plusieurs genres et qui était brillant pour l'époque.
Ouais, il était juste brillant et super bien équilibré, passionnant et tout. Un grand jeu.
Je crois que vraiment, il fait l'unanimité. Ouais. Autre jeu qui risque de faire l'unanimité, hein, forcément, il s'agit de Super Mario Land. Oh là là, quel jeu! Quel jeu extraordinaire! Probablement même, enfin, à mes yeux, l'un des tout meilleurs Mario, hein, Julo.
Ah ouais, je me rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien quand je l'ai fini. j'étais assez fier de moi parce que c'était assez compliqué sur la fin.
Avec les Chinois, avec les petits persos qui sautaient partout.
Et à la fin, t'es en avion et tout.
Ouais, enfin, en avion.
Bref, c'est un très très bon Mario, et puis c'était juste génial de pouvoir jouer à un jeu d'une telle ampleur sur Game Boy, encore une fois. Voilà. Et à l'époque, c'était grandiose.
Le niveau
c'était
de l'Égypte, les niveaux de Chine.
Ouais, il était complet, gigantesque, riche, et puis le gameplay, ils avaient pu faire leur preuve déjà, mais c'était super. Quoi. grand jeu.
Ouais, caf.
Mario Land 2 également.
Moi, c'était mon premier Mario en plus.
Ton premier Mario?
Moi aussi, ouais.
Parce que j'avais que des consoles Sega, en fait, qui se branchaient sur la télé. Et du coup, j'avais joué à Sonic, etc. Mais jamais à Mario.
Mais c'était un vrai Mario.
C'était mon premier Mario. Et là, j'ai découvert que c'était pas si facile que ça.
Non. Et que c'était très varié. Et effectivement, une fois de plus, hein, pas de pile de sauvegarde. Donc, il fallait jouer.
J'ai jamais fini d'ailleurs.
D'une traite. Et alors, moi, j'ai deux anecdotes. J'étais arrivé contre le dernier boss qui, effectivement, on était dans un avion. Il fallait tirer. Et au moment où il meurt, il fait. Et puis, il commence à disparaître juste avant le générique. Et là, plus de pile. Et là, t'es dégoûté parce que tu te dis, je verrai jamais la fin. Alors, je l'avais re-refait. Et la fois où je l'avais re-refait, je me rappelle, et c'est là où on se rend compte que quelque part, on grandit, on évolue. Avoir été mort de rire de le mec il s'appelle Miyamoto comme une moto. Et je me rappelle vraiment être mort de rire en cours de récréation avec mes potes parce qu'on l'avait fini genre je sais pas le midi ou je sais pas quoi.
Ah, mon
parce que ça prenait 2-3 heures à finir, pas plus en fait.
Oh ouais.
Et on était tous morts de rire sur ce mec Miyamoto machin. Et de me dire que quelques années après, et pas tant que ça. Ouais, non mais c'est ça. Quelques années après, on allait comprendre à quel point ce mec était un génie quoi. Bah à l'époque, j'avais des très grosses lunettes et on m'appelait Harry Potter, référence à Blink, à qui d'ailleurs on passe un très grand bravo. Hein, c'est une petite anecdote, petite digression, mais c'est Blink qui nous a réalisé le niveau Gameblog dans Little Big Planet.
Mais il n'est pas fini. Hein.
Et il n'est pas fini, il y a un teaser pour la suite.
J'étais sidéré. Quoi.
Magnifique.
Quand j'ai découvert la vidéo, franchement, j'étais vraiment impressionné. Quoi. Et très content.
Ah ouais, super bien réalisé. Un grand bravo à Blink et à tous ceux qui l'ont suivi sur le forum. Comme la Toon 64, par exemple. Allez, on continue. Autre grand jeu, t'en parlais il y a quelques instants, hein, Zelda Link's Awakening.
Grandiose.
Il est sorti sur Game Boy, première du nom. Et pareil, hein,
et là, encore
l'un des meilleurs Zelda, quoi.
Mais ouais, non, vraiment, vraiment génial. Pareil, très long. Moi, je me suis pas arrêté. Et c'est marrant parce que ces deux jeux-là, je les ai à chaque fois fait pendant des vacances à la montagne. Je m'en souviens très bien. J'aurais pu aller respirer
le grand air.
Le grand air et tout, mais non. Au grand désarroi de mes parents, j'étais tout le temps scotché sur la Game Boy à l'intérieur près d'une lampe.
Partez en vacances avec vos enfants.
J'ai fini Zelda et Gargoyle's Quest comme ça pendant des vacances. Un souvenir, voilà, impérissable, je m'en souviendrai toute ma vie.
Et Zelda Awakening, c'est le tout premier Zelda dans lequel il y a des séquences où, par exemple, on voit un tableau et ça se met en vrai dessin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Absolument pas.
Très bien.
On recommence.
Bah, c'est comme des sortes de mini cinématiques, sauf qu'à l'époque, c'était pas animé,
mais
il y avait des images fixes qui permettaient de mieux voir Link, etc., plutôt que le voir, parce qu'en fait, c'était sorti un peu après Zelda 3 de la Super Nintendo, Link to the Past. Et du coup, ça en reprenait un peu le style graphique, vu du dessus de trois quarts. Mais ça rajoutait pas mal de petites nouveautés et innovations qui étaient bien vues. Il y avait des séquences de plateforme aussi dans ce Zelda Link Awakening. Et ça, c'était
une. Ça, je me rappelle pas de ça.
Ah, tu te rappelles pas? Tu descendais en fait, il y avait des niveaux où tu descendais dans les souterrains et t'avais le crochet, le grappin, etc. Et tu pouvais sauter, même sur des ennemis. Ça mélangeait plein de choses. C'était vraiment un jeu très très riche qui avait été repris après avec la version DX sur Game Boy Color. Un autre jeu. Allez, un autre jeu, toujours sur Game Boy Color, là exclusivement, il s'agit de Metal Gear Ghost Babel. T'en parlais rapidement tout à l'heure.
C'était un des premiers jeux qui utilisait. Enfin, je sais pas si c'est un des premiers. En tout cas, moi, c'est un des premiers que j'ai fait sur Game Boy Color. Et c'était très impressionnant. Bon, alors, le seul truc, c'est qu'il est quand même. Je veux dire très très classique quoi. Quand t'as joué au premier Metal Gear, bon en gros c'est
sur MSX, c'est la version
non premier Metal Gear Solid, je veux dire à l'époque c'était juste après si je me souviens bien. Et bon c'était le même jeu quoi, avec un scénario adapté différent, mais enfin voilà, il se passait exactement les mêmes trucs, tu devais récupérer les mêmes armes, les mêmes machins, etc. Donc c'était pas original pour un sou, mais par contre il était très bien équilibré et très bien foutu. Très beau et très prenant, donc voilà, c'est probablement mon meilleur souvenir sur Game Boy Color.
De tous les jeux ?
Sur Game Boy Color.
Ah oui, d'accord. Voilà,
sur les deux jeux de,
oui,
Game,
c'est ça.
De la Game Boy Color.
Mais il y en avait pas mal des jeux Game Boy Color. Hein. Il y en avait beaucoup.
Mais c'est en tout cas celui qui t'a le plus marqué. Reprenait effectivement un style graphique un peu comme les versions MSX d'antan. Autre jeu sur Game Boy, moi, qui m'avait particulièrement marqué, c'était le Batman. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le Batman, il était absolument génial. Il était d'une difficulté, mais incroyable. Il était vu de côté, c'était de la plateforme. Puis il y avait des séquences avec le Batwing.
Et c'était sur quoi ? C'est la première Game Boy ?
Ah ouais, la toute première Game Boy, bien en noir et blanc, le Panzer blanc, quoi. Mais c'était vraiment un très beau souvenir, mais de difficulté aussi, caf.
Bah non, moi je voulais juste parler de mon copain Kirby, a été un autre petit jeu qui est devenu une mascotte. Je sais pas si Kirby était déjà connu à l'époque, en fait. Mais quand le jeu est sorti, c'était sur Game Boy la première. Hein. Mm. Et moi, j'y joue en 95. Et pour la petite histoire, c'est le jeu qui m'a permis de tenir quand j'étais en train de jouer les anxio-dépressifs pour ne pas faire mon service militaire. Bonjour l'armée. Parce que voilà, il fallait pas que je reste, c'était pas possible. Et donc voilà, j'ai passé mon temps à l'infirmerie sous des prétextes fallacieux à jouer à ce truc-là. Et ça m'a trop sauvé. J'ai dû le finir 5 fois. Je n'avais que ce jeu-là avec moi. Mais je le connais par cœur.
Un jeu que tu as bien aimé, Raon, et que moi j'ai vraiment adoré aussi. Il s'agit de Mystic Quest, alias Final Fantasy, alias Seiken Densetsu, ouais. Qui était donc sorti sur Game Boy et qui est effectivement un grand jeu, qui est une adaptation en fait.
Je me souviens du jeu.
Ouais.
Je sais que j'y ai joué en vacances, mais je ne sais plus du tout où j'étais.
Parce qu'il était déjà alcoolique.
Mais du moment que tu te souviens du jeu, c'est déjà l'essentiel. Ouais, c'est ça dont tu vas nous parler.
Je n'ai fait que ça aussi pendant ces putains de vacances, c'est jouer à Final Fantasy Legend, parce que c'était une version US que j'avais. Mm-hmm.
Qui n'a de Final Fantasy que le nom. Hein,
ah oui. Hein.
Qui était même pas d'ailleurs un des meilleurs RPG de la plateforme.
Déjà, c'est un action RPG.
Je me souviens notamment d'un passage. En fait, il y avait plusieurs univers qui étaient reliés par une tour centrale dans laquelle se situait le créateur, en fait, qui était le dieu qui avait fait tous ces mondes-là. Et il y avait. J'ai eu un Roland d'accent québécois.
Exactement.
Là. C'était bizarre.
Tous ces mondes-là.
Et il y avait une scène avec une moto dans le futur. Ça te dit pas quelque chose, ça ?
Absolument
pas.
Ça, c'est dans Final Fantasy VII, non ?
Ça, c'est dans Chrono Trigger. Mais...
J'y ai jamais joué à ton truc, donc oublie.
ça ne me rappelle rien du tout.
On peut pas t'aider, mec.
Si, il y avait un des mondes qui était dans le futur avec un gang de bikers, etc.
Oh, ça ressemble vraiment à Chrono Trigger, hein, mon ami, franchement.
Toi, t'es en train de mélanger deux trucs, peut-être.
Écoutez, c'était le Mystic Quest de Raon, vous aurez compris. En tout cas, c'est un jeu.
Final Fantasy Legend, pour
moi. Oui, voilà, oui. Bah vous aurez compris que c'est un jeu.
Tu choisissais au départ si tu voulais faire tu commençais avec un seul perso, il fallait que tu ailles pécho le reste de ton groupe. Il y avait des mutants, des humains et comment ils s'appelaient les derniers, je me souviens plus.
Mais attends, mais ça se trouve, on parle vraiment de deux jeux différents.
Je crois, oui, vraiment, définitivement.
On parle pas du même jeu, ouais, peut-être, effectivement.
Enfin, c'était un très bon jeu, hein. C'était bien.
À la
fin,
tu te tapais contre le créateur, ça c'est sûr et certain.
C'est possible.
Sur les boss finales, aidez-nous.
Voilà. Dieu.
Est-ce que vous vous rappelez aussi des Castlevania sur la première Game Boy,
ouais.
À la difficulté improbable.
Grave.
Ah, sur la première Game Boy.
Ah ouais. Je n'ai jamais réussi à finir. Je pense que je suis arrivé au niveau où ça doit être le troisième ou quatrième, où ça commence à avancer. Il y a des pics partout. Il avait une particularité, le jeu, c'est qu'il était plutôt joli, l'ambiance sonore était très bonne, mais les sauts, tu vois, il fait des sauts où, tu sais, il s'arrête de sauter tout d'un coup, il redescend tout droit.
Comme une grosse pierre.
C'est-à-dire qu'il fait un arc de cerf, puis bam, il y retombe. Ouais, et du coup, il fallait calculer au millimètre.
C'est les anciens Castlevania, ils ont ressorti sur PSP, là, comment il s'appelait, Rondo of Blood. C'était pareil, les sauts, d'un seul coup, tu pèses 3 tonnes.
C'est ça. C'est... Je saute, tout est fini. Je saute plus. Donc, très bon jeu, mais
tu croyais que t'allais sauter plus haut, hein.
Mais ça, c'est typiquement, et même si à l'époque, on avait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, même si on était complètement. On pouvait y passer des heures et des heures et qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Je n'ai jamais réussi à finir ce jeu. Absolument jamais. Allez, d'autres titres, mais cette fois-ci sur des Game Boy Advance, par exemple. Il y a... Kourou Kourourin.
Fantastique jeu. Fantastique.
Rappelle un peu le concept.
Je crois qu'on a été... J'ai pas été tout seul à kiffer le jeu.
Non, on l'avait tous avec F-Zero.
Voilà.
Et on faisait les compètes aussi en même temps pour essayer de finir les niveaux.
Donc
le plus vite possible.
Je rappelle aux gens ce que c'était. C'était une espèce de bâton qui tournait. Il fallait passer dans un labyrinthe avec des ennemis, des obstacles, etc. Le principe du jeu, mais super con, mais très joli, très mignon.
Très addictif.
Très addictif. Et je crois un des trucs les plus crispants où j'ai joué dans les années 90, parce que tu es sûr que ça passe. Alors là, c'est vraiment ça. C'est un peu le jeu Bart Simpson, ça passe, et ça passe pas. Et là, t'entends clink. Et t'avais cette espèce de bruit de verre qui se brise quand tu pétais le bâton. T'avais juste envie de fracasser la console.
Parce qu'il y avait plein de petites pics dans les labyrinthes comme ça.
Des pics, des trucs électriques qui sortaient et tout. Fallait timer comme un porc. Et c'était, mais super dur. Et je l'ai jamais fini non plus d'ailleurs.
Un vrai puzzle game, moi non plus, j'ai jamais fini.
Moi, je l'ai fini déjà, et d'une.
Ah bah, respect, parce que franchement, il est super dur.
Et c'était un jeu de lancement, donc excellent jeu de lancement.
Je crois qu'avec F-Zero et celui-là, pour un lancement de GBA, enfin, c'était.
Et il y avait le Super Mario 2 aussi qui est un super Mario.
J'y repense, non, j'ai joué même un autre truc. J'avais un clone, j'avais un faux Mario Kart de Konami en jeu de lancement japonais.
Ah bah oui.
Et
le jeu YY Racing.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et ben putain, avec il y avait une espèce de tableau pour choisir les courses et tout. Je le trouve trop mignon, jeu.
Mais il était pas mal. Et moi, je trouve que ça allait plus vite que Mario Kart, hein, mais bon.
Ah bah il était vraiment super bien ce jeu, et j'y repense parce qu'effectivement c'est des cartouches japonaises que j'ai pas ressorties depuis des années, et celui-là il était vraiment béton quoi.
Juste comme ça, on va pas revenir vraiment dessus, hein, mais là je viens d'avoir des flashs, j'ai vu Arkanoid, Super Arkanoid avec Mario qui était à l'intérieur de sa petite barre, quel grand jeu sur Game Boy le tout premier.
Il y avait aussi Mario aussi.
Ouais, il y a Quix. Le jeu, on doit faire des carrés, genre des pourcentages, remplir, etc. Qui était fantastique. Il y a eu tellement de jeux, en fait, tellement de jeux.
Sur GBA,
Il y a
la première Game Boy. Hein.
Ah, d'accord.
Sur GBA, il y en a eu un paquet aussi. Avec, toi, tu parlais de Golden Sun tout à l'heure. Il y avait la série Advance Wars aussi qui est née sur GBA.
Golden Sun, j'ai utilisé. Enfin, c'est vraiment, j'ai des souvenirs de bouts d'aventure dans des avions avec genre 20 heures avec transfert d'aéroport et tout, ou en étant en mode zombie avec la carte, la console sous la main, tu vois. Et puis dès que tu peux te poser 3 secondes ou 10 heures, en train de jouer comme un porc, quoi.
Golden Sun, on rappelle, hein, c'est un RPG visuellement magnifique, ouais. Et pour l'époque, une super bande son et puis des combats au tour par tour, une sorte de Final Fantasy que la Game Boy Advance n'avait pas à l'époque. C'est un peu un appel du pied aussi, hein, ouais. C'était fait par Camelot. Et puis depuis, il y a eu 2 épisodes, me semble-t-il, ouais. Et depuis tant de rumeurs de un nouveau Golden Sun qui devait arriver sur GameCube, mais qui n'est jamais arrivé. Peut-être un jour sur Wii.
La cartouche était scotchée en tout cas dans ma SP en permanence.
Julo,
pour la Wii, tu rêves. Pourquoi pas assez casual.
Ouais, on sait jamais, mais c'est vrai que bon, ça a pas l'air super bien engagé. Il y a aussi le retour des Castlevania sur Game Boy Advance, où par contre, c'est des grands Castlevania.
Ouais, c'est-à-dire qui est
finissable.
Qui hérite de la. Symphony of the Night, voilà, sur PlayStation, qui est quand même un des plus grands Castlevania de la série.
Bah, les super meilleurs Castlevania de ces dernières années sont sur portable, en fait.
Ouais, non, parce qu'il est sorti sur DS et tout.
Ouais, mais même sur PSP, il y en a eu des très. Enfin, je parle de la concurrence vite fait, mais c'est hallucinant. À chaque fois, ils ont fait des bons produits, quoi.
Voilà, c'est une très bonne série, mais qui se renouvelle un petit peu à chaque fois, mais qui a gardé ce principe de base du grand château. Enfin, pas tout ceci dit, le tout dernier sur DS, il est pas en grand château, mais.
Enfin, t'as toujours le principe de la difficulté qui fait pleurer quand même, parce que c'est jamais facile, même si c'est finissable. Quand même, un Castlevania se doit de te faire souffrir.
Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les Castlevania sur Game Boy, c'est finalement les meilleurs Castlevania, hein, à l'exclusion du Symphony of the Night sur PlayStation, mais tout ce qui se fait en 3D et tout. Enfin,
il faut oublier.
Hein,
non, mais c'est 2D ou 3D.
Oui, oublier notamment d'ailleurs le dernier, là, Judgment Machin. Là,
oui, c'est une espèce
de baston de merde.
F-Zero, on en a parlé, hein, puis on va pas revenir là-dessus. Hein, c'est extraordinaire, mais enfin, c'était globalement une sorte de remake plus de la version Super Nintendo. On y a passé des heures incroyables, c'était absolument fantastique. Il y a aussi l'apparition, l'émergence d'une nouvelle série, les WarioWare, Julo.
Ouais, tout à fait, les compiles de mini-jeux, hyper. C'était assez étonnant à l'époque, ce jeu. Il fallait vraiment se plonger dedans pour arriver à comprendre que c'était fun, quoi. Donc, un visuel complètement déjanté, des mini-jeux qui durent 3 secondes, qui s'enchaînent à la vitesse de la lumière, et voilà. Donc, très très drôle, et surtout qu'ils ont sorti une autre version qui s'appelle Twist. Wario Land Twist, qui est en fait une cartouche dans laquelle justement tu as un capteur de mouvement qui fait que les mini-jeux sont basés non pas sur appuyer rapidement sur telle touche, mais sur bouger la console comme ci, comme ça, etc. Et celui-là, il est extraordinaire.
Effectivement. Et puis après, c'est des choses un petit peu surprenantes, mais la Game Boy Advance a fait renaître aussi des grands titres de l'époque arcade. Et je pense par exemple à Final Fight, qui a fait une belle réapparition sur Game Boy Advance. Et puis il y a Street Fighter 2 aussi, où apparemment, Angel, tu as passé des heures sur Game Boy Micro.
Bah ouais, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un peu une révolution, quoi. T'avais l'arcade dans ta poche.
C'est clair.
Et ça tuait. Et Final Fight, c'était ça, je me souviens, quand on l'avait acheté. Je crois qu'on l'avait tous acheté en groupe.
Ouais, en japonais, avec Candy.
Et c'était juste pour le plaisir d'avoir la bande d'arcade dans ta poche, quoi.
Final Fight dans la poche.
Et moi, j'ai halluciné parce que j'ai jamais réussi, quand j'étais petit, à le finir en bande d'arcade à base de 10 francs. Puis au bout d'un moment, tu fais plus d'argent. et je l'ai enfin fini sur Game Boy Advance. Donc, de la grosse bande d'arcade à la Game Boy Advance dans mon salon, je me rappellerai éternellement ce jour où j'ai fait putain, j'ai fini sur un truc qui était grand comme la paume de ma main, quoi. La technologie,
grosse baffe technique aussi au sujet de la Game Boy Advance, c'est la sortie du Tony Hawk Pro Skater 2
en 3D.
C'était hyper impressionnant parce que c'était de la simili 3D, en fait. C'est-à-dire les personnages étaient en 3D, ils évoluaient
sur une arène en 3D isométrique en 2D. Voilà.
Et t'avais exactement le même gameplay que sur un Tony Hawk sur PlayStation, etc. C'était vraiment hyper impressionnant, hyper bien foutu, hyper addictif. C'était un vrai Tony Hawk portable, mais bien adapté, parce que évidemment on pouvait pas le faire exactement comme sur PlayStation, quoi. Mais bon,
c'est un des rares trucs qui faisait de la 3D en plus, d'ailleurs.
C'était un pionnier à ce niveau-là.
Même si c'était que le skater, mais bon, enfin, c'était quand même impressionnant. Ouais.
C'était plutôt mal foutu. On parlait il y a quelques instants avec WarioWare du lancement d'une nouvelle série. Il y en a une autre qui a pris son envol sur Game Boy Advance, qui est aujourd'hui reconnue et à juste titre par sa qualité. Il s'agit de Phoenix Wright, Angel.
Plus connu justement à l'époque sous Gekutan Saiban. C'était la série des Gekuten, donc ils sont sortis après sur DS, donc des traductions. Ils ont été traduits, ils sont sortis sur DS, mais à l'origine, ils sont sortis sur GBA, mais uniquement en japonais. Et ils ont mis vraiment super longtemps.
La fameuse série des jeux d'avocat où tu joues un avocat.
Phoenix Wright, donc.
C'est ça.
Et puis voilà, je me souviens l'avoir vu passer. Enfin, je me souviens avoir vu à l'époque Greg qui jouait.
Oh. Et qui était mort de rire tout seul.
Exactement. Et je trouvais le design surpuissant. Et j'étais passé derrière lui comme ça, je me disais, c'est quoi son jeu ? Il m'explique le concept, j'avais trouvé ça super fort et j'avais attendu impatiemment qu'il le traduise. Mais après des années.
Ça a mis très longtemps.
Que dalle. Ouais. Ça a mis super longtemps et finalement, ils ont fini par comprendre en le sortant sur DS. Mmh. Voilà. Mais à l'origine, c'était donc une série sur GBA.
Très bien. Allez, on va conclure ce podcast sur dédié à la Game Boy, à la Game Boy Advance. Avec toi, Julo, deux jeux un petit peu plus confidentiels, mais qui étaient vraiment super sympas aussi, en tout cas qui t'ont fait passer de très très bons moments.
Alors moi, il y a la version Game Boy Advance de Choo Choo Rocket, qui est un très très grand jeu, qui était donné gratuitement sur Dreamcast, qui laguait quand tu jouais online, etc. Mais sur Game Boy, tu peux y jouer donc avec le câble Link à 4. Et ce jeu, pour tous ceux qui ont joué, ils seront d'accord avec moi, c'est sûr, c'est une vraie tuerie en multijoueur. C'est juste hyper fun, c'est hystérique, c'est génial. Et la version GBA est donc très très bien. Et l'autre jeu qu'il ne faut pas oublier, c'est Rhythm Temple Goku. Donc, qui va sortir bientôt en version DS, ça va s'appeler Rhythm Paradise, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est un jeu musical qui a été fait par la team justement de WarioWare. Donc, c'est complètement déjanté et c'est juste génial. Et très sincèrement, c'est vraiment un des meilleurs jeux musicaux qui existent au monde. Ouais, c'est très, très, très drôle. Je crois que même que la version DS est un peu moins bien. Si vous avez l'occasion de choper, moi perso, j'y joue que sur GBA, j'ai pas encore essayé la version DS. Mais voilà, jouez-y, commandez-le, achetez-le, ça vaut pas cher et c'est
ça
génial.
Ça peut rapporter gros en termes de bonheur. Caf.
Non, mais moi je me demandais justement pourquoi Choo Choo Rocket ça n'a pas été plus adapté dans tous les jeux, toutes les plateformes de download justement. Là, qui
mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi.
Parce que... Je crois qu'il y a une malédiction. Dès que Julo émet un jeu sur Dreamcast,
mais voilà,
en gros,
c'est ça,
la mort. C'était Choo Choo Rocket, c'est un super jeu, les gars.
T'es un vrai chat noir, Julo.
J'aime ouais.
Parce que ça, c'est un truc à même jamais Metal Gear quoi.
Mais vous avez déjà joué à Choo Choo Rocket?
Dreamcast comme tout le monde, mais
c'est génial.
Avec
c'est
les chats vraiment, qui poursuivent les.
C'est tellement drôle, tellement drôle.
Souris. Bon, en tout cas, voilà, vous l'avez compris hein, et vous l'avez entendu au son de nos voix, beaucoup de jeux qui nous ont fondamentalement passionnés, puis il y en aura encore tant d'autres. Bah maintenant, ça va être à votre tour hein, de rendre hommage un petit peu à la Game Boy, enfin j'ai envie de dire
le Game Boy.
Oui, le Game Boy ou au Game Boy avec un X, puisque comme vous avez pu le voir, hein, il y en a eu plus de 7 versions. Ça a commencé donc le 21 avril 1989. Ça y est, la Game Boy a désormais officiellement 20 ans et un jour, et ça nous a fait plaisir aujourd'hui de lui rendre hommage dans ce joli podcast, ma foi, qui nous a rappelé plein de bons souvenirs, j'ai envie de dire.
Ouais, on est vieux, ouais.
Eh ben ouais.
C'est, oui, surtout c'est moi, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Surtout moi.
Plein de souvenirs, probablement que vous aussi, vous en avez. Et si toi, tu es celui qui a un jour fracturé une porte, une fenêtre d'une voiture et volé une Game Boy, et que tu as envie de faire un bon geste, rends-moi ma Game Boy, ça me fera fondamentalement plaisir. Voilà, allez, on se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur gameblog.fr. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Et puis, kiffez. Ciao.
Ciao.